Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va? Les copains, bonsoir. Regardez, j'ai un mug YouTube. Abonnez-vous. MDR. Pourquoi je l'ai pas? Ah, faut connaître les gens de YouTube. Ça va bien perso, aucune garde à vue de mon côté ce matin. Très bien. Tant mieux, bravo à toi. T'es youtubeur, tu vas aller à la police. Non mais justement, je suis allé voir les copains de YouTube hier. On a bu des coups et tout. Et j'ai revu Hugo Décrypte. Putain, ça faisait 1 000 ans que je l'avais pas vu Hugo. Ça m'a fait trop plaisir de le voir. Il y avait Hugo, il y avait Gaspard. Et voilà. Et qu'est-ce qu'ils sont grands ces gens-là, putain, ils font tous 2 mètres. J'étais tout petit à côté. Salut les gars, ça va? Non, c'était cool. Ça m'a fait plaisir de les voir. Et voilà. En train de taffer les partiels tranquille. Tranquille, ça va le faire. T'as laissé ta voix au bar? Mais non, pas du tout. J'ai la voix cassée. Bonsoir. Hugo Décrypte, le Jean Massier des riches. Exactement. Exactement, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais donc ça m'a fait plaisir de les voir, c'était cool. J'ai rencontré aussi Alex de la chaîne French Guy Cooking. Le mec fait de la cuisine là. Il fait des vidéos en anglais. Trop sympa. Hyper intéressant. Il y avait les copains de Brut et tout. Non, c'était cool. Question de nous. Pourquoi tu as besoin d'un casque alors que c'est nous qui t'écoutons? Pour deux raisons. D'une part, quand je vous diffuse des vidéos, des trucs comme ça, j'ai besoin d'avoir le retour du son. Et d'autre part, quand je parle dans le micro, j'ai un retour dans mon casque, ce qui me permet de savoir, de pouvoir faire des réglages de son. Voilà, ce qu'on appelle un retour, ce qui est pratique. Et je pourrais mettre un retour, sur une enceinte, mais ça repisserait dans le micro. Et du coup, vous m'entendriez en double. Alors, je sais que vous aimez beaucoup les génériques en double, mais ma voix en double, ça, c'est pénible à la longue, hein. Quand tu auras 100 000 abonnés, je pourrai avoir ton trophée YouTube. Non, c'est mort. Je le prendrai en photo, je te l'enverrai. C'est pas ultra déstabilisant le retour audio de sa voix? Non. Non, non, c'est pas déstabilisant. Enfin, c'est un métier, vous savez. Pardon. Non, non, mais on s'habitue. Faut juste s'y faire. C'est pas évident au début. Franchement, en 1 heure, c'est réglé. Hein, en gros, tu passes les streams à t'écouter parler. Ça doit être horrible. C'est absolument insupportable. En plus, je dis des conneries. Vous savez que je re-regarde beaucoup mes streams. Hein. Je re-regarde beaucoup mes streams. Je me fais des replays. Je me fais des replays de mes streams. Des fois, je réécoute. Et je fais mon autocritique, camarade. Et à chaque fois, je trouve qu'il y a 1 milliard de trucs qui vont pas. Est-ce qu'il y a un monsieur dans ton casque qui te dit quoi dire? Ouais. Bah, comme d'hab, hein, c'est la Commission européenne qui me donne des ordres. Hein. En allemand. Le retour audio est quasi instantané quand il passe par la GoPro XLR, donc c'est pas dérangeant. C'est le retour via un logiciel PC qui est plus lent et donc dérangeant. Oui, non, non, c'est instantané hein, le retour. C'est absolument instantané. Jean, si on veut donner des sous-sous pour la saison 2 de Backseat, on fait ça sur ton Utip. Attends encore un peu. Attends encore un peu. Garde de l'argent sur ton compte. Attends encore un peu. Je sais que ça te démange. Moi aussi. Merci Petiot pour ton e-sub, pour ton abonnement, pardon. Voilà. Le gouvernement vient d'annoncer que y aurait une aide de 100 euros de carburant pour les 10 millions de foyers les plus pauvres qui ont besoin de la voiture pour aller travailler. Dans les 100 euros, il y en a bien 99 qui sont prévus pour Backseat. Ça, je sais pas. Il suffit de donner la Commission européenne pour financer Backseat. La Commission, vous pouvez envoyer un RIP, s'il vous plaît? Et si on n'a pas de voiture? Et si on n'a pas de voiture, on n'a pas besoin d'aide à l'achat de carburant pour rouler en voiture? Est-ce qu'on peut prendre une pause clope quand on est sénateur ou député pendant les séances, je veux dire? Oui. Les séances, vous pouvez, quand vous êtes député ou sénateur, vous pouvez quitter la séance pendant la séance, à n'importe quel moment. Vous pouvais rentrer et ressortir de l'hémicycle pour aller fumer une clope, passer un coup de téléphone, etc. D'ailleurs, le député et streamer Hugo Bernalicis m'a envoyé un texto avec le screenshot de la décision du bureau de l'Assemblée nationale. Ça y est, c'est officiel, il est interdit de streamer depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La décision a été prise officiellement. Décision spéciale Twitch. Il s'était fait engueuler parce qu'il streamait depuis l'hémicycle pendant l'examen de la loi Lopmi, je crois, au début. Et voilà. Il s'était fait taper sur les doigts et il avait dit ouais, mais c'est pas écrit dans le règlement intérieur. Et du coup, le bureau a dit bah on va préciser et ils ont pris une décision. T'en penses quoi? Je pense que c'est un sous-problème. Je pense que ça nécessitait pas une décision. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'interdire ça. On s'en fout. Ça dérange personne. Voilà. Que le député prenne du temps pour répondre à un chat sur une chaîne Twitch, c'est son problème de député. Ça gêne pas le reste de l'hémicycle. Voilà. Et de vapoter, je trouve ouf qu'Elisabeth le fasse au vu de tous. Qu'Elisabeth Borne. Je sais pas si c'est interdit de vapoter. Je suppose que c'est interdit de vapoter, mais effectivement, Elisabeth Borne, elle vapote discretos. Mais bon, comme elle est première ministre, elle est filmée tout le temps, donc c'est pas ouf. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une sponsor du gouvernement sans être affilié à un parti quand on fait de la vulgarisation politique? C'est une bonne question. C'est pas une question évidente parce que sponsor du gouvernement, le gouvernement, ce sont des ministères. Chaque ministère agit dans son coin, etc. Moi, je me suis jamais empêché de faire des partenariats avec des organismes publics gouvernementaux. En tout cas, dès lors qu'on est d'accord sur l'objet du partenariat et pourquoi on le fait. Par exemple, je prends un exemple. J'avais fait un partenariat avec le ministère des Armées, et on était d'accord avec le ministère des Armées à l'époque pour dire que le but du stream, c'était de faire découvrir les armées, d'en parler, de parler des métiers, de parler de l'action des armées, de faire la vulgarisation sur les armées, mais pas de dire que l'action du gouvernement en matière des armées, c'était bien, qu'il fallait soutenir le gouvernement, etc. Moi, je suis prêt à faire des streams en partenariat avec des ministères pour vous faire découvrir les métiers. J'aimerais bien un jour faire les métiers de la justice. Il y a plein de trucs à dire, les avocats, les magistrats, les greffiers, la pénitentiaire, etc. Enfin voilà, moi je suis prêt à faire des partenariats. J'avais déjà fait un partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur à l'occasion des 50 ans du traité de Bologne sur l'Europe des universités. Donc vous voyez, ça devient du coup un sponsor gouvernemental, mais on est toujours. Enfin, moi en tout cas, je tiens à ce qu'on soit d'accord avec le partenaire sur le fait que le but de l'émission n'est pas de dire du bien ou du mal, de l'action gouvernementale, c'est de présenter des choses qui existent dans un but de vulgarisation, de présentation, d'explication, et pourquoi pas de vous donner des opportunités de trucs qui existent, why not et tout. Mais pour autant, je n'ai pas envie de faire des partenariats pour mettre en avant des dispositifs gouvernementaux, genre je n'ai jamais accepté de faire des partenariats sur un jeune, une solution.fr, le service national universel. Des trucs comme ça veut pas dire que je le ferai jamais parce que si ça concerne l'orientation, why not, mais j'ai pas envie de mettre en avant des dispositifs gouvernementaux. Il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait, on pense à Thibaut InShape pour le SNU et tout. C'est leur choix, c'est leur décision, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai ces limites-là, quoi. Mais en général, ça se passe assez bien parce que les services publics avec qui je discute et quand je fais des partenariats avec eux, ils sont toujours les premiers à me dire non, non, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas faire de la pub en mode racoleur, ouais, soutenez le gouvernement, on s'en branle. Au contraire, on est plutôt du genre à vouloir ouvrir le débat, on veut que les gens du chat s'intéressent, se questionnent, nous questionnent, et s'ils ont des critiques, ils peuvent les formuler, il n'y a aucun problème, au contraire. Enfin voilà, donc on a toujours été plutôt raccord avec les partenaires que j'ai. Il y a une différence importante entre présenter et promouvoir. Oui, voilà, c'est ça, c'est une question de démarche. Et tant qu'on est raccord avec le partenaire, ça roule et j'ai jamais eu de problème. Voilà. Et puis par ailleurs, c'est la différence entre les pouvoirs publics, donc d'ordre gouvernemental, ministériel, collectivité locale, et le privé. Ou le privé, quand on fait de la publicité pour que vous achetiez, vous consommiez des services ou des produits, c'est pas pareil qu'un service public qui, par définition, enfin, les services publics vous proposent plein de choses, des opportunités, des appels à projets, des dispositifs que vous connaissiez peut-être pas et tout. Donc il y a aussi un travail de sensibilisation, vous voyez. C'est pas tout à fait du même ordre, quoi. C'est pour ça que je trouverais ça débile de dire non, je travaillerai jamais avec l'État. Je fais de la vulgarisation politique, donc ouais, je vais parfois bosser avec l'État. Mais toujours dans un sens précis qui est la vulgarisation, le débat, etc. Voilà. Merci Renard, merci Filounon, merci Monsieur Frites. Salut, comment se passe la procédure de dépôt d'une proposition de loi par les députés hors niche parlementaire? Alors c'est une bonne question. En fait, il faut bien comprendre que le fait de proposer des lois, c'est un pouvoir des députés qui ne peut pas leur être rejeté. C'est comme le droit d'amendement, c'est un pouvoir très important qui n'a pas de limite. Ce qui veut dire que virtuellement, un député peut déposer toutes les propositions de loi qu'il veut, tant qu'il veut. Le problème, c'est pas de déposer une proposition de loi. Parce qu'en fait, déposer une proposition de loi, tu la donnes à un administrateur de l'Assemblée pour qu'il aille la donner au président ou au bureau de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est d'inscrire ta proposition de loi à l'ordre du jour des débats. C'est ça qui est difficile. C'est d'avoir un créneau de discussion. C'est pas de déposer une loi. Donc déposer des lois, c'est facile. Je sais pas comment ça fonctionne en interne. Je sais pas s'il y a un drive où tu fais un copier-coller, un glisser-déposer de ta proposition de loi. La difficulté, c'est inscrire à l'ordre du jour. Et ça fait l'objet de décisions de discussion. Et les niches parlementaires sont faites pour protéger les groupes minoritaires. Pour leur permettre d'avoir un moment la main sur l'ordre du jour. En fait, quand vous y réfléchissez, une niche parlementaire, c'est rien d'autre qu'un groupe minoritaire qui a la main sur l'ordre du jour ce jour-là. Donc, ils discutent de ce qu'ils veulent. Un groupe minoritaire peut, s'il le veut, inscrire à l'ordre du jour de sa niche un projet de loi du gouvernement. Je vois pas très bien l'intérêt, mais on pourrait imaginer que des députés d'un groupe minoritaire disent « Ah non, nous, on veut continuer la discussion sur le texte machin. » Bah, ok. C'est un peu débile parce qu'on en discute le reste du temps, mais ok, si vous voulez. C'est con, c'était votre jour à vous, mais ok. D'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Rassemblement national qui a annoncé, dans sa niche parlementaire qui va arriver début janvier, souhaiter inscrire un texte qui n'est pas du RN, qui est un texte de la France insoumise. Le RN choisit, enfin, a proposé, parce que ça a été refusé par le LFI finalement, après réflexion, a proposé d'inscrire dans sa niche un moment de discussion pour les insoumis. Voilà. Quand tu streames les débats à l'Assemblée, on peut considérer que tu fais la promotion du gouvernement. Ah bah non. Ah bah non. L'Assemblée, c'est pas le gouvernement. Séparation des pouvoirs. Pouvoir législatif. On peut éventuellement considérer que je fais la promotion de l'Assemblée. Et encore, on pourrait en discuter, mais certainement pas le gouvernement. Je vous diffuse une séance au cours de laquelle les membres du gouvernement se font engueuler par des députés d'opposition. En termes de publicité, on a vu mieux quand même. Donc non. Non, en plus vous entendez différents sons de cloche et tout. Non, non. Et puis par ailleurs, la promotion de l'Assemblée, je suis le premier à être. Enfin, vous m'entendez souvent être assez critique vis-à-vis de certains modes de fonctionnement, etc. Même si je suis toujours là pour en discuter avec vous, mais je fais de la vulgarisation sans vous cacher. Enfin, moi, vous savez, c'est toujours l'expression que j'ai toujours utilisée. Ça fait 7 ans que je fais ce métier, ça fait 7 ans que je vous dis, mon rôle à moi, c'est pas de vous faire aimer la politique, c'est de vous la montrer. Si la politique, elle n'est pas aimable, c'est pas de ma faute. Moi, je vous la montre et je vous l'explique. Après, c'est à vous de vous faire votre opinion sur est-ce que vous l'aimez pas, trouvez que ça marche bien, ça marche pas assez bien, il faudrait changer des trucs. Très bien, vive le débat, vive les propositions, allons-y, let's go. Donc, un groupe pourrait proposer de déclarer que leur journée parlementaire, c'est relâche. Non, enfin, c'est absurde. Enfin, pourquoi? Les groupes minoritaires, ils se battent pour faire des propositions. Ils ont qu'un seul jour dans l'année. Je vois pas l'intérêt de le cramer et de le gâcher en disant on va discuter de rien. C'est absurde. Tu te situes comment par rapport aux audiences d'LCP? Je fais entre 5 et 10 fois plus d'audience qu'LCP sur Internet. Sur les mêmes séances que je diffuse. Que. Sur les seuls trucs comparables, quoi. Comment sont fixées les dates des niches? Les dates des niches sont fixées au début de l'année, au moment où ils décident du calendrier de l'année. Au moment où ils décident du calendrier de la session, ils font un calendrier prévisionnel de l'année et ils se répartissent les dates. Alors, je ne sais pas exactement si c'est au hasard, je sais pas. Ou c'est comme ça les arrange. Sérieux, genre LCP, ils font 1 à 2, 4 téléspectateurs. Non, non, je parle bien d'Internet. Je parle d'Internet. Sur Internet, LCP, ils diffusent sur YouTube et sur Facebook les séances des questions au gouvernement. Et en général, ils ont 200-300 viewers en cumulé. À la télévision, bah, ils ne mesurent pas leurs audiences LCP. Donc, on ne sait pas combien ils font. C'est quoi LCP? Pardon, LCP, pour ceux qui ne savent pas, c'est une chaîne de télévision. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était que la télévision. Demandez à vos parents, ils vous expliqueront. Voilà, ça veut dire la chaîne parlementaire. La France est le seul pays au monde à s'offrir le luxe d'avoir deux chaînes de télévision pour couvrir l'actualité parlementaire. Une à l'Assemblée et une au Sénat. Médiamétrie ne mesure pas. Pour que Médiamétrie mesure tes audiences télé, il faut les payer. Il faut les payer très cher. C'est très très cher, Médiamétrie. Donc, si tu les payes pas, ils mesurent pas. Et en l'occurrence, LCP Public Sénat, comme ils n'ont pas d'annonceurs de publicité, ils n'ont pas besoin de mesurer leurs chiffres, parce que ça sert à quoi de mesurer les téléspectateurs? Ça sert à vendre des espaces publicitaires à des clients. Quand tu n'as pas besoin de vendre des espaces publicitaires, ça sert à rien de mesurer les audiences. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est LCP Public Sénat, ils ne mesurent pas beaucoup leurs audiences, parce que sinon, ça commencerait à se voir qu'ils n'en font pas beaucoup. Puis il y avait un mec de la télé qui m'avait dit oui mais c'est débile parce que comme toutes les autres chaînes de la télévision mesurent leurs audiences et que LCP Public Sénat c'est la seule chaîne à pas mesurer, il suffit de faire une soustraction et on connaît la part d'audience. Oui, c'est vrai, vu comme ça, oui. Question, quelle est la différence entre les groupes d'études et les commissions à l'Assemblée? Les commissions à l'Assemblée nationale sont des groupes de travail thématiques de députés sur des champs d'action publique spécifiques qui interviennent dans le champ législatif et qui ont des pouvoirs de contrôle. Donc une commission, c'est quelque chose de très officiel et de très organisé qui va avoir un rôle particulier à jouer dans l'examen de la loi. Les groupes d'études, ce sont des organisations plus light et plus lâches et moins officielles qui permettent à des députés qui le souhaitent de se tenir au courant les uns des autres sur des sujets spécifiques. Il y a à peu près une centaine de groupes d'études à l'Assemblée nationale sur plein de sujets, et les députés sont libres de s'inscrire dans les groupes d'études qu'ils veulent parce qu'ils veulent se tenir au courant d'un sujet en particulier qui les intéresse ou sur lesquels ils veulent bosser. Voilà. Donc t'as des groupes d'études sur des secteurs d'activité, par exemple. T'as un groupe d'études sur le secteur de la viticulture. Ça va beaucoup intéresser les députés qui sont élus dans des territoires viticoles. C'est l'occasion d'organiser, de coordonner leur travail, leurs informations. Ils ont des boucles mail, des boucles WhatsApp. Enfin, c'est con, hein, mais c'est mine de rien, ça coordonne le travail, ça permet d'avancer. Puis ils peuvent organiser des déplacements et des visites ensemble. Ils peuvent faire des réunions s'ils veulent se coordonner et tout, discuter, échanger. Voilà. Ça a donné quoi, en fait, le groupe d'études jeux vidéo? Il a été abandonné du coup. Non, le groupe d'études jeux vidéo n'a finalement pas été abandonné. Il y avait eu un moment, il y avait un doute sur est-ce que le groupe d'études jeux vidéo allait continuer à exister. Et finalement, les députés de tous les groupes se sont mobilisés pour dire non, non, on veut garder ce groupe d'études. Il est important, on veut travailler sur le sujet du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle en France. Voilà. Donc le groupe d'études sur le secteur du jeu vidéo a été maintenu à l'Assemblée. Il n'y en a pas au Sénat, mais il y en a un à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut visiter l'Assemblée et le Sénat? Oui, bien sûr, l'Assemblée nationale et le Sénat siègent dans des palais de la République, qui sont le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg à Paris, que vous pouvez visiter, bien entendu. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez. Il n'y a pas que les journées du patrimoine, hein, c'est visitable plusieurs jours par semaine. Vous pouvez vous rendre sur le site internet de chacune de ces institutions pour voir comment faire pour les visiter. Et en plus, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé son ambition d'augmenter considérablement le nombre de visiteurs. Elle trouve qu'il n'y a pas assez de Français qui visitent et donc elle veut passer, je crois, 1 million de visites par an. Donc, allez-y. Ça va booster les visites. Et moi, je vous recommande toujours, si vous passez à Paris, si vous avez le temps, si ça vous amuse et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à visiter, c'est sympa. C'est des beaux bâtiments à visiter. La Tour Eiffel, c'est sympa aussi, c'est vrai. L'Arc de Triomphe, tout ça, c'est un peu vu et revu. Mais tant qu'à faire, tiens, et si on donnait quelques heures de visite à l'Assemblée, au Sénat? Voilà. Quand tu connais bien ton député, tu peux même aller au restaurant de l'Assemblée avec lui. Oui. Si vous pouvez profiter de votre visite à l'Assemblée pour rencontrer votre député. Les députés aiment beaucoup rencontrer des électeurs, des gens de leur circonscription. prendre un café, déjeuner au restaurant s'ils vous invitent. Voilà. Très sympa le restaurant de l'Assemblée. Elle gère les visites aussi. Bah, la présidente de l'Assemblée nationale, elle préside l'institution, donc elle dirige l'Assemblée nationale, donc oui, elle peut impulser. Elle s'occupe de l'image de l'Assemblée, donc oui, c'est elle qui décide. Là, elle a dit, moi, je veux impulser plus de visites, je veux que on ouvre les portes et les fenêtres, que les Français puissent venir visiter plus facilement l'Assemblée. Voilà. Est-ce que tu regrettes d'avoir été favorable au pass sanitaire et vaccinal? Hein? Pourquoi? C'est quoi le rapport? Est-ce qu'il y a un DGS à l'Assemblée? Oui. Il y a un DGS à l'Assemblée, alors je ne sais pas exactement quel est son titre officiel, secrétaire général, je crois. Donc un haut fonctionnaire qui dirige les services administratifs de l'Assemblée, les fonctionnaires de l'Assemblée, oui, il y a un patron des fonctionnaires de l'Assemblée, dont j'ai oublié le nom, et vous le voyez dans les séances parce qu'il est assis derrière la présidente. C'est un des deux messieurs là qui est assis derrière la présidente et qui est là dans les séances justement pour l'aider. Est-ce que le bar et le resto sont libres d'accès? Non. Le restaurant n'est pas libre d'accès, il est réservé aux députés et à leurs invités. Donc il faut être invité par un député pour déjeuner au restaurant de l'Assemblée. Et la buvette, comme on l'appelle, il y a une buvette qui est réservée aux députés. Donc même les collaborateurs n'ont pas accès. Les fonctionnaires non plus. C'est que pour les députés. Il y a une autre buvette qui est pour les journalistes, la buvette, on appelle la buvette des journalistes. Là où les députés et les journalistes peuvent se rencontrer, discuter, papoter et tout. Et je crois qu'il y a une troisième buvette. Je sais plus où elle est. Après, dans le quartier, il y a des cafés, hein. Il y a des cafés où vous pouvez vous poser avec votre député et boire un coup, hein. On mange quoi au resto de l'Assemblée? Bah, il y a une carte, hein, c'est un restaurant. Waouh, le raid! Salut Bruce! Merci Bruce, bienvenue à tes viewers. Bonjour, je m'appelle Jean Massier, je parle d'actualité politique, je fais de la vulgarisation et je fais un stream là, si vous le souhaitez, hein, de vulgarisation politique, de FAQ, pardon, où je vous propose, si vous le souhaitez, de me poser toutes les questions qui vous passent par la tête pour que vous ne compreniez pas en politique et si je peux vous aider, je vous aiderai en essayant de vous expliquer comment ça fonctionne ce beau merdier qu'on appelle la politique. Je sais pas ce que vous faisiez sur le stream de Bruce. Pourquoi tu te focalises davantage sur l'Assemblée que sur le Sénat? La raison à ça, c'est que le fonctionnement des institutions de la Ve République est tel que l'Assemblée nationale a une importance différente de celle du Sénat, et que c'est davantage à l'Assemblée que se font et se défont les politiques publiques qu'au Sénat. Ça veut pas dire que le Sénat est inutile, on en a déjà parlé plusieurs fois, et je peux vous réexpliquer si vous voulez, mais l'Assemblée nationale, c'est les députés sont élus au suffrage universel direct, c'est eux qui ont le pouvoir de censure du gouvernement, c'est devant l'Assemblée qui est responsable le gouvernement, comme on dit, et non pas devant le Sénat. Donc c'est davantage à l'Assemblée que se fait l'actualité politique. Voilà la raison pour laquelle je parle plus souvent de l'Assemblée que du Sénat. Par ailleurs, il se trouve que depuis juin dernier, les équilibres politiques de l'Assemblée sont moins clairs qu'auparavant. Le président de la République ne bénéficie pas de majorité absolue pour la première fois depuis 2002, depuis 20 ans, et que donc ça rend l'actualité sénatoriale autrement plus l'actualité à l'Assemblée, ouais, autrement plus intéressante que par le passé. Quel est le moyen le plus simple pour interagir avec son député? Mail. Mail. Envoie un mail à ton député. Va sur son site internet, envoie-lui un mail. Est-ce qu'il y a des visites virtuelles du Sénat, genre Street View? Il y a quelques photos Street View à l'intérieur du Sénat, mais c'est pas vraiment de la visite virtuelle. Donc c'est un peu décevant. Il y a l'Élysée que vous pouvez visiter en visite virtuelle, enfin une petite partie de l'Élysée. Qui est plutôt bien fait sur le site internet de l'Élysée, mais l'Assemblée et le Sénat, il y a pas, y a, je, à ma connaissance, il y a pas. Ah si si si, l'Assemblée ils l'ont fait, je crois. L'Assemblée, je crois qu'il y a un truc de visite virtuelle en 3D. Je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allé voir, je t'avoue. J'y vais tellement souvent que j'ai pas besoin de visiter en virtuel. Pardon, je suis un connard. Comment sont élus les sénateurs? Les sénateurs sont élus par les élus locaux, ce qu'on appelle un scrutin indirect, puisque c'est pas nous qui votons directement pour les sénateurs, ce sont nos élus qui votent pour les sénateurs. Mais oui, c'est vrai, on avait fait la visite virtuelle de l'Assemblée ensemble. Ça remonte. Ouais, c'est vrai, maintenant que vous le dites. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on l'avait fait ensemble en stream. Je n'ai aucune mémoire. C'est pour ça qu'il faut vous réabonner, hein, parce que moi j'oublie. Oh. Quand se déroulent les prochaines élections sénatoriales? L'an prochain. Ouais, 2023. Donc septembre 2023. Comment est décidé le salaire de nos députés? J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui répond à cette question, que tu peux aller voir si tu veux. Les députés n'ont pas de salaire, ils ont une indemnité parce qu'ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de travail au sens de contrat de travail, ils ont un mandat de représentation au sein d'une institution et ils perçoivent pour cela une indemnité qui est calculée de mémoire. C'est un barème qui est accolé à celui de la fonction publique. Donc le mode de calcul, ils ont fait un système d'équivalence avec la fonction publique à grade équivalent ou un truc comme ça, je sais plus. Voilà. Que penses-tu de cette hypothèse d'un troisième mandat pour Macron suite à la jurisprudence du président de la Polynésie? Je n'y crois pas un quart de seconde. Ça a vite fait agiter quelques esprits sur Internet. L'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a fait savoir que selon lui, il était possible qu'Emmanuel Macron puisse se présenter une troisième fois consécutive en cas de démission en s'appuyant sur cette jurisprudence du Conseil d'État. Moi, j'y crois pas, je considère que c'est une vue de l'esprit, c'est un peu absurde. Il y a des juristes d'ailleurs qui ont écrit des billets pour expliquer qu'ils sont d'accord avec le streamer Jean Massier. Le prochain Sénat pourra-t-il être de gauche? Alors le Sénat a déjà été de gauche, il y avait une majorité socialiste entre 2010 et 2013 et 2014, 2011-2014, je sais plus. Est-ce qu'il pourrait être de gauche? Il y a très peu de chances puisque le Sénat répercute les équilibres politiques des élections locales, par définition, puisque ce sont les élus locaux qui votent. Et en ce moment, il n'y a pas suffisamment d'élus locaux de gauche pour réussir à créer une majorité de gauche au Sénat. J'y crois pas ou c'est pas techniquement possible. En fait, l'hypothèse farfelue d'une troisième candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle repose sur un alignement de planètes putatif, imaginaire, qui est tellement incertain et tellement, enfin, que voilà, et comme je vous le dis souvent, le droit constitutionnel, c'est pas vraiment spéculatif, donc on peut toujours imaginer des scénarios en disant ouais, mais si, machin. C'est un peu comme Trump qui essaye d'imaginer un scénario où on annule l'élection présidentielle. Non. Voilà. Est-ce qu'il est sympa, François Malle au Sénat? Ouais. Est-ce que tu connais la répartition des partis politiques au Sénat? Pas par cœur, mais ouais, les groupes politiques, la majorité, c'est les Républicains. Ils sont associés à un autre groupe qui s'appelle les centristes, qui est un peu l'équivalent de l'ancienne UDF, centre droit. Ensuite, il y a un groupe de sénateurs qui soutient le gouvernement. Ils sont pas très nombreux, ils sont une vingtaine, je crois. Quinzaine, vingtaine. Et après, il y a la gauche. Et la gauche au Sénat, ils ont trois groupes, les communistes, les socialistes et les écologistes. Voilà. Et il y a aussi le groupe RDSE, pardon, faut pas les oublier, les radicaux. Ils sont là depuis un siècle, on va quand même pas les oublier. Que penses-tu de la prise en compte des rapports scientifiques, principalement au niveau de l'énergie CEA, RTE, dans la décision politique récente? Eh ben, j'en sais rien, il y a une proposition de loi sur l'énergie qui va arriver l'année prochaine, il y a des commissions qui font des auditions régulièrement pour se tenir au courant. Le coup. Du coup, Renaissance n'inclut pas le Sénat dans sa stratégie politique. Non, très peu. Et pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils n'en ont pas besoin, puisque la Ve République prévoit que le Sénat n'a pas le dernier mot, que c'est seule l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de majorité au Sénat pour gouverner. Et d'autre part, parce que Renaissance est très peu présent au Sénat. Ils ont un tout petit groupe. Enfin, un petit groupe. Voilà. Donc pour ces deux raisons, effectivement, Renaissance, ils essaient de convaincre les sénateurs, mais bon, si ça passe pas, c'est pas très grave. Le seul moyen pour qu'il fasse un troisième mandat consécutif serait qu'il change la durée du mandat dans la Constitution et c'est pas gagné du tout. Oui. Non, non, mais c'est, enfin voilà, c'est. On peut toujours avoir de l'imagination si on veut, mais bon. Ça s'est passé comment le débat sans vote sur l'immigration? Je sais pas, j'ai pas suivi. Je suis allé me coucher. Est-ce que le groupe Renaissance est amené à perdurer au Sénat? Je sais pas, ça va dépendre des électeurs, ça pour le coup c'est aux élus locaux de décider. Est-ce qu'il serait envisageable de faire une comparaison entre le système politique français et ceux d'autres pays européens? Cela pourrait être intéressant de voir les différences et particularités avec leurs éventuelles conséquences. Ça s'appelle le droit comparé, ce que tu dis. C'est une discipline de juristes, de scientifiques. Il se trouve que je suis maître en droit comparé, parce que j'ai une maîtrise de droit comparé. Et c'est absolument passionnant, effectivement, de faire des comparaisons de systèmes juridiques et de régimes politiques. Sauf que c'est un exercice qui se heurte à des problématiques fascinantes, de barrières de langue, de culture, d'histoire, de sociologie, qui font que, y a un moment, on ne peut pas tout comparer tout le temps, quoi. C'est quand le vote de l'inscription de l'IVG au Sénat? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont l'inscrire à l'ordre du jour au Sénat. Si la France insoumise n'avait pas retiré son texte pour la niche RN, les travaux auraient repris du début ou là où ça s'est arrêté pendant la niche LFI, là où ça s'est arrêté. Pour ceux qui n'ont pas suivi cet épisode, le Rassemblement national a une niche parlementaire comme tous les autres groupes minoritaires qui arrive début janvier prochain et il y a quelques jours, le Rassemblement national a présenté les lois qu'ils entendaient débattre au cours de cette niche. Et surprise, le Rassemblement national a proposé de reprendre une proposition de loi du groupe LFI, déposée par Caroline Fiat, une proposition de loi qui vise à réintégrer les soignants qui ont été exclus parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Vous vous souvenez de ce débat dans les hôpitaux, tout ça, notamment Outre-mer, machin. Bref, la proposition de loi de réintégration des soignants non vaccinés, des personnels soignants non vaccinés, avait commencé à être débattue au cours de la niche parlementaires de la France insoumise, mais ils n'avaient pas pu arriver jusqu'au bout. Le Rassemblement national a donc proposé de continuer ce débat au sein de sa propre niche. La députée Caroline Fiat, par ailleurs vice-présidente de l'Assemblée nationale, s'est d'abord dite favorable à saisir cette main tendue du Rassemblement national pour continuer le travail législatif autour de cette loi, mais la France insoumise a fait savoir ce matin, je crois, ou hier soir, je ne sais plus, que finalement, il refusait de jouer le jeu du Rassemblement national. Donc voilà. Et donc pour répondre à ta question, si jamais ils étaient allés jusqu'au bout, Caroline Fiat aurait pu. Elle a été nommée rapporteure de la commission, donc elle aurait repris son rôle de rapporteure, elle aurait continué les débats. Elle s'est faite taper sur les doigts par ses collègues. Je ne sais pas si elle s'est faite taper sur les doigts, mais ils en ont débattu. Ils en ont discuté. Pourquoi la France insoumise a refusé la reprise de la proposition de loi par le RN? Parce que la France insoumise reproche au gouvernement de jouer le jeu du Rassemblement national et de faire voter ses lois avec le RN. C'est compliqué à tenir comme position de critiquer les gens qui se rapprochent du RN tout en se rapprochant soi-même du RN. Tu vois? Donc il y a un moment, ça crée un truc difficilement tenable. Par ailleurs, ils ont des alliés au sein de la NUPES qui ont fait savoir qu'ils n'étaient pas trop pour ce genre de move. Mais bon, chaque groupe fait ce qu'il veut. Et même en interne au groupe Rassemblement National, au groupe LFI, ils n'étaient pas tous d'accord. Et après en avoir débattu, ils ont pris la décision de ne pas faire ça. Du coup, c'est un peu bête d'abandonner leur idée juste pour s'allier aux méchants RN. J'ai dû rater une subtilité. Non, t'as pas raté une subtilité, c'est juste que il y a un conflit entre deux volontés d'LFI. C'est pas grave, ça arrive, hein. Tous les autres partis ont le même problème. Où est-ce que tu mets le curseur? Est-ce que tu es prêt? En fait, la question c'est, est-ce que tu es prêt à renier certaines de tes convictions pour en faire avancer d'autres? Et ça, cette question, elle se pose tous les jours en politique. C'est normal, c'est le jeu de la politique. Il y a des choses dans lesquelles je crois, il y en a plusieurs. Et parfois, on peut être amené à prioriser certaines par rapport à d'autres, voire même renier certaines de ses convictions pour en faire avancer d'autres. C'est chiant, mais c'est comme ça. En l'occurrence, la France insoumise a deux convictions. La première, il faut réintégrer les soignants non vaccinés. Et la deuxième, il ne faut jamais travailler avec l'extrême droite. Ce sont deux convictions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais il se trouve que là, hop, les deux rentrent en conflit. Du coup, comment on fait? Eh bah, il faut faire un choix. Et ils ont fait un choix. Voilà. Est-ce que ça veut dire que le RN déposera sa propre proposition de loi ou alors ils abandonnent complètement le sujet? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que va faire le RN. Ils restent maîtres de leur propre niche parlementaire, c'est le principe d'une niche. Donc ils décideront soit d'inscrire un nouveau texte, donc on repart à zéro, quoi. Soit de laisser tomber en disant bon bah si la LFI fait pas, ça sert à rien, on va passer à autre chose. En plus, la majorité ne cesse de parler des extrêmes qui se rejoignent. Oui, ah oui, non, non, c'est là la majorité, évidemment, la majorité, il ricane de cette situation. Puisqu'ils disent les extrêmes se rejoignent, bah regardez la preuve. La preuve que les extrêmes se rejoignent, le RN propose à LFI de bosser ensemble et le LFI commence par dire oui avant de dire finalement non. C'est bien la preuve qu'il y a des accointances entre les deux. Premier élément. Et deuxième élément, ils disent. Et deuxième élément, ils disent. Attends, ils disent quoi d'autre déjà? Je sais plus. LFI, c'est extrême. C'est pas à moi d'en juger, mais du point de vue du gouvernement, oui. Voilà. Du point de vue de la majorité, des groupes de la majorité qui soutient Emmanuel Macron, ils considèrent que la France insoumise, est extrême. Alors, ça dépend un peu. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que j'essaie de vous parler de cette tactique parlementaire, parce qu'elle montre bien que justement, les groupes, ils sont habiles, ils sont smart. Et moi, j'aime beaucoup cette nouvelle mandature là qui a commencé en juin dernier, parce qu'elle est beaucoup plus intéressante que la précédente. Parce que moi, j'ai l'opportunité de vous montrer des moments où se jouent des coups politiques comme ça, qui sont révélateurs de difficultés qu'ont les différents groupes. Les macronistes, qu'est-ce qu'ils disent de la France insoumise? Bah, ça dépend qui et ça dépend quand. Il y a des gens chez les macronistes, chez la majorité présidentielle, qui disent que la France insoumise, c'est l'extrême gauche, il faut jamais travailler avec eux, ils sont en dehors de l'arc républicain. Voilà. Il y en a d'autres au sein de la majorité. Qui disent non, la France insoumise, ils sont pas en dehors de l'arc républicain, et en cas de second tour entre Mélenchon et Le Pen, moi je vote Mélenchon. Parce que je sais faire la différence entre ma gauche et ma droite, et voilà, bon, bah, donc ils sont pas tous d'accord. Et puis par ailleurs, ça dépend quand. Quand Jean-Luc Mélenchon fait campagne pendant la présidentielle, les macronistes disent Jean-Luc Mélenchon est d'extrême gauche, il est irresponsable. C'est quelqu'un qui veut le désordre, le chaos, qui veut bloquer. C'est pas quelqu'un de responsable. Il est en dehors de l'arc républicain et des gens raisonnables. Quand entre les deux tours de la présidentielle, on se retrouve à avoir Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour et que les macronistes se mettent à avoir besoin des voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, d'un seul coup le ton change et là on a Richard Ferrand qui dit nous avons des valeurs communes avec les insoumis. Ah bon bah faudrait savoir. Faudrait savoir. Quand les députés de la France insoumise votent la motion de censure du RN, la majorité présidentielle dit, ah bah vous voyez bien que finalement extrême gauche, extrême droite, c'est pareil, ils votent ensemble, ils sont main dans la main. Et quand un mois plus tard, quelques semaines plus tard, la France insoumise propose d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Les macronistes disent, ah, c'est une très bonne idée, on va voter avec vous. On va même retirer notre propre texte pour garder la version de la France insoumise. Faudrait savoir. Donc, voyez? Donc voilà, donc est-ce que la France insoumise est infréquentable pour les macronistes? Bah ça dépend quand et ça dépend qui. Voilà, c'est ça. C'est tous des hypocrites. Non, c'est pas forcément de l'hypocrisie. Mais c'est pas les seuls à faire ça. Regardez, enfin, encore une fois, pardon, je vais pas remuer le couteau, mais enfin, la France insoumise et le Rassemblement national, est-ce que le Rassemblement national est infréquentable? Bah, la France insoumise, ils n'ont pas toujours été clairs là-dessus. Ça dépend qui parlait et à quel moment et dans quel contexte. Il y a des moments où visiblement ça les dérange pas de fréquenter le Rassemblement national, il y a d'autres moments où c'est hors de question et c'est les pires. Bah, bon, bah. C'est le RN qui a voté la motion de censure de la NUPES, pas l'inverse. Je parle pas de la NUPES, je parle d'LFI. Attention, confondez pas, hein, je parle pas de la NUPES, je parle d'LFI. LFI retire ses candidatures pour battre le RN, contrairement à Renaissance. Pas partout. Pas partout. Pareil, attention, c'est. Oui, c'est une consigne nationale, mais on a vu des candidatures maintenues au niveau local, aux législatives. Voilà. Et c'est pas les seuls, hein. Je jette pas la pierre à LFI particulièrement. Il y a aussi d'autres membres de la NUPES. C'est pas. C'est assez drôle que LREM et LFI usent de la même technique en essayant toujours d'associer le 3 RN. Oui, mais ça, c'est ce que j'essaye de vous montrer. Il y a toujours des. Il y a toujours des oppositions. Comment dire? Enfin, tous les partis politiques jouent le jeu de l'épouvantail vis-à-vis des autres. C'est normal. Ça fait partie du débat parlementaire. Le Rassemblement national passe son temps à dire qu'Emmanuel Macron est soumis à la NUPES, à l'islamo-gauchisme et à la gauche, etc. C'est leur manière à eux de diaboliser. Bon, eux, ils diabolisent dans l'autre sens, mais c'est. On est tous le diable de quelqu'un d'autre, hein. On peut leur reprocher une malhonnêteté intellectuelle. Enfin, si vous voulez, si vous voulez, le truc, c'est que c'est difficile en politique d'être cohérent tout le temps et de maintenir en permanence une posture éternelle, universelle et absolue. À l'exercice, alors si c'est possible de le faire quand on ne sort pas du monde merveilleux des idées. Là, on peut être pur et parfait, mais quand à l'exercice, le pouvoir, quel que soit le pouvoir, y compris un groupe minoritaire, etc., ça force à parfois faire des compromis avec soi-même. Et donc, il y a des mutations, il y a des évolutions, il y a des changements de contexte qui justifient des évolutions de posture. Le RN a clairement tendu un piège à LFI sur ce coup. Ouais. Ah, puis ils ont bien joué, hein. Tactiquement, c'était bien joué de leur part. C'est surtout dur d'exister, surtout quand les majorités sont relatives. C'est plus facile d'exister quand les majorités sont relatives que quand elles sont absolues. C'est pas forcément se renier. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'essaie de. Oui, c'est ce que... enfin, c'est une question de point de vue. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord. Hein. Mais j'essaie de vous dire qu'on ne se renie pas toujours quand on fait preuve de compromis, de subtilité. C'est pas toujours facile. Et il faut pas prendre un exemple pour justifier une caractérisation absolue et éternelle d'un groupe ou d'un. Voilà. Parfois, il y a de l'abnégation, effectivement, c'est un beau mot, l'abnégation en politique. J'ai l'impression que le principe du compromis est une notion qui passe pour de la faiblesse ou de la trahison. Oui, c'est une question de culture politique et puis c'est une question d'institution aussi, hein, pas seulement de culture politique. La Ve République ne favorise pas nécessairement la culture du compromis. On est loin des pratiques parlementaristes qu'on peut avoir dans d'autres pays d'Europe du Nord, comme en Allemagne, en Italie, dans d'autres pays. Dans les questions-réponses députés et ministres, est-ce que c'est en impro ou ils savent déjà qu'on va les questionner sur ce sujet précis avant? Alors, merci Parkizen pour ton prime. Les séances de questions au gouvernement à l'Assemblée ont lieu tous les mardis de 15h à 17h. Donc on sait dans l'agenda qu'il y aura forcément une séance de questions tous les mardis de 15h à 17h. On sait que ce sera diffusé sur la chaîne Twitch de Jean Mascier, donc tout le monde est présent, les ministres, les députés, tout le monde veut passer sur Twitch, c'est normal, donc ils sont tous là. Ce que l'on connaît à l'avance dans les questions dans la séance, on connaît les noms des députés qui vont poser des questions. Ça, c'est public. Ce qu'on appelle ça l'ordre de passage. On sait dans quel ordre ils vont poser leurs questions et on sait que la quatrième question va être posée par Monsieur Machin. Et on sait que Monsieur Machin, il appartient au groupe Truc. OK? Ensuite, les députés sont libres de poser les questions qu'ils veulent. Les députés sont libres de poser les questions qu'ils veulent sur des sujets qu'ils veulent. Ils se démerdent pour les choisir. C'est leur problème. C'est pas le gouvernement. C'est pas le bureau de l'Assemblée. C'est chaque député, chaque groupe se coordonne en interne pour décider qui va poser une question la semaine prochaine, qui a envie, qui a un sujet, etc. Machin. Ils se démerdent. C'est leur problème. Ensuite, les députés, une fois qu'ils ont prévu de poser une question, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, et ils sont libres et rien ne les y oblige. Et j'insiste là-dessus, rien ne les y oblige. Ils sont libres de communiquer à l'avance leurs questions au gouvernement, s'ils le veulent. Mais ils sont aussi libres de garder leurs questions secrètes, en disant, bah, vous verrez bien la question que je vous poserai, vous vous démerdez. Pourquoi est-ce que des députés donneraient à l'avance leurs questions au gouvernement? Soit parce que ce sont des députés de la majorité, auquel cas ils soutiennent le gouvernement, donc ils sont pas là pour les emmerder, au contraire, ils sont là pour les soutenir, donc ils vont pas les piéger. C'est pas une interro surprise. Soit ils sont opposés au gouvernement, mais ils veulent avoir une réponse précise à leurs questions. Donc ils disent, bah, si je veux une réponse précise, c'est pas la peine de piéger le gouvernement, on va pas faire une interro surprise. Je leur donne le sujet à l'avance, comme ça je suis sûr que j'aurai une réponse à ma question et qu'ils vont présenter des éléments et des trucs comme ça. À l'inverse, il y a des députés d'opposition qui peuvent choisir de dire, bah, ma question, je vais la garder secrète, on va faire une interro surprise, et s'ils n'ont pas d'éléments de réponse à me donner, c'est leur problème. Mais, une fois que je vous ai dit ça, donc, le gouvernement, au début de la séance, ils connaissent les questions qui vont être posées par les députés de la majorité, c'est normal, c'est les députés qui sont de leur camp, donc ils sont coordonnés avec eux, voire même parfois ils préparent ensemble les questions, ça arrive. Ils connaissent quelques questions de l'opposition, pas toutes, mais quelques-unes. Et pour les questions, pour les membres d'opposition qui veulent pas dire sur quel sujet ils poseront leurs questions, ils savent pas sur quel sujet ça va être posé. Mais le gouvernement, il n'est pas débile, il peut aussi anticiper. Il se doute bien le gouvernement que le député machin, s'il leur pose une question, ce sera très probablement sur tel sujet. Et comment ils le savent? Bah, ils suivent les streams de Jean Mascier, donc ils sont au courant de l'actualité politique. Donc ils savent qu'en ce moment, par exemple, il y a un peu des tensions sur l'énergie. Donc la ministre de l'énergie, elle peut préparer une réponse à peu près n'importe quelle question sur le sujet de l'énergie. Tu vois, en ce moment, elle sait que c'est un peu chaud. Voilà. Et ça, c'est valable pour tous les ministres. Tous les ministres, ils connaissent les 4 ou 5 dossiers un peu prioritaires là du gouvernement, de leur ministère en ce moment. Donc ils ont déjà des fiches de backup, de fiches de révision, de réponses toutes faites sur plein de, sur des questions, des sujets importants. Donc on peut pas les prendre en traite sur ces sujets-là. Et ensuite, ils savent que tel député travaille sur tel sujet actuellement. Donc il y a très forte chance que si le député machin pose une question, bah, il y a très forte chance que sa question ce soit sur le sujet sur lequel il bosse. Donc pareil, on peut deviner le sujet de l'interro. Et ensuite, ils connaissent aussi les circonscriptions d'élection des députés. Donc ils peuvent se douter aussi que le député qui va poser une question, ça va peut-être être sur un sujet qui touche sa circonscription. Et en l'occurrence, bah, quand tu suis un peu l'actualité politique, bah, tu sais que dans tel coin de la France en ce moment, il se passe des problèmes qui sont plutôt ça. Donc tu peux préparer. Donc voilà, c'est pour ça que le gouvernement, il prépare ses fiches de révision, ses fiches de réponse, ces petites fiches Bristol là que vous voyez. Bah, en fait, ils font un travail de préparation, ils n'arrivent pas les mains vides. Ils préparent, et ils disent bah, si le député machin, il n'a pas voulu nous donner sa question, c'est son droit, mais on a préparé notre coup et. Et voilà. Voilà. Un député a-t-il le droit de poser plusieurs questions lors d'une même session de questions au gouvernement? Non. C'est une question par député. Après, dans sa question, il peut en poser plein s'il veut. Enfin bon. Si tu as déposé ta question, est-ce que tu peux changer au dernier moment? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que des députés fassent des coups de pute. Mais c'est rare. C'est rare. Comment est décidé l'ordre de passage? C'est ce qu'on appelle un tourniquet. C'est-à-dire que les groupes, enfin l'ordre de passage des questions varie entre les groupes politiques pour pas que ce soit toujours les qu'on rassemble, on rassemble pas toutes les questions d'un tel groupe au même moment et tout. Et le tourniquet prévoit que c'est pas toujours le même groupe qui commence et c'est pas toujours le même qui termine. Donc il y a un tourniquet, donc il change séance après séance. Voilà. C'est pour ça que chaque question numéro 1 est posée chaque semaine par un député d'un groupe différent de celui de la semaine dernière. S'ils sont beaucoup à vouloir poser des questions et que du coup ça dépasse le temps alloué, comment on choisit qui passe et qui ne passe pas? En fait, tous les groupes de l'Assemblée connaissent à l'avance le nombre de questions qu'ils vont poser. Plus un groupe est gros, donc plus il y a de membres de son groupe, plus il a de questions à poser. Plus un groupe est petit, moins il a de questions. Donc les groupes savent à l'avance qu'ils ont un quota de X questions à poser chaque mardi. Donc les groupes doivent communiquer le nom des députés qui vont poser des questions pour leur groupe chaque semaine. Donc ils peuvent pas déposer plus de X noms. Donc ils se démerdent. Ils se démerdent entre eux, hein, chaque groupe se débrouille. Ils se les répartissent comme ils veulent, c'est eux qui décident. C'est pour ça que les députés font des réunions de groupe le mardi matin. Et donc ils se réunissent en groupe. Et là, ils se coordonnent entre eux sur plein de sujets, dont le sujet des questions. Donc dans la réunion de groupe du mardi matin, ils disent bon bah la séance de cet après-midi. En direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, qui veut poser une question? Et donc là, ils sont entre eux, donc ils sont entre groupes. Ils disent, bah, moi, en ce moment, dans ma circonscription, donc là où je suis élu, bah, c'est le bordel, il y a ça, il y a des inondations, il y a des incendies, il y a machin, j'aimerais bien poser une question. Il y a un autre qui dit, bah, moi aussi, j'ai une question parce que je viens de rendre un rapport sur le sujet machin, j'aimerais bien que le gouvernement, machin. Il y en a un autre qui dit, bah, moi, je pense qu'il faudra en ce moment un peu attaquer le gouvernement sur tel sujet. Et ils se coordonnent, ils se débrouillent, ils disent, bon, bah, ok, bon, bah, cette semaine, on priorise tel sujet, et toi, Michel, si ça te va, on attend une semaine. Ok, c'est bon pour moi, pas de soucis. Enfin, vous voyez, bon, voilà, ils se démerdent. Est-ce qu'on a des vidéos de ces réunions de groupe? Non, les réunions de groupe sont à huis clos. C'est pas filmé. Est-ce qu'il y a une trace écrite des questions et des réponses? Oui, au journal officiel. Et il y a un replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Jean Massier, replay. Un petit groupe peut avoir beaucoup de questions à poser et si possible, il se passe quoi? Ah bah il se passe rien, ils se démerdent. Peu importe le nombre de questions qu'ils ont envie de poser, c'est pas une question d'envie, c'est juste qu'ils ont qu'une seule question. Un petit groupe, il a qu'une seule question par séance. Donc ils se démerdent, ils se débrouillent. S'ils voulaient avoir plus de temps de parole, ils avaient qu'à avoir plus de députés. Il fallait gagner les élections, les gars. Hein. C'est les Français qui décident. Hein. Est-ce que le groupe du gouvernement peut poser des questions? Oui. Un groupe de la majorité peut poser des questions. Pourquoi tu as choisi de streamer les questions au gouvernement et pas autre chose? Parce que c'est une des séances les plus intéressantes pour faire de la vulgarisation politique, parce que c'est une séance qui est dense, qui permet de voir en peu de temps différentes opinions politiques représentées à l'Assemblée, donc des députés de plusieurs groupes qui prennent la parole les uns après les autres, d'une part. Ça permet de brosser. C'est une séance dans laquelle on brosse plein de sujets différents, au lieu d'être une séance monosujet. C'est une séance dans laquelle on voit beaucoup de membres du gouvernement répondre sur des sujets d'actualité. Donc ça permet de voir différents visages et différents ministres et tout, à la différence des séances législatives, où en général, il y a un seul ministre puisqu'on parle de ces sujets. Et c'est une séance dans laquelle on parle de sujets d'actualité. Donc ça fait cinq raisons pour lesquelles c'est une séance que moi je trouve intéressante à regarder, à diffuser. Voilà. Est-ce que tous les groupes de la Majo sont concernés par le rabotage du nombre de questions ou juste le groupe du PR? C'est une bonne question. C'est une bonne question, ça je saurais pas te dire. Faut regarder s'il y a une règle de proportion entre Horizon et Modem et le nombre de questions qu'ils posent. Est-ce que tu fais les séances au Sénat de temps en temps? J'en ai fait pendant plusieurs années. Ça pourra me réarriver de le faire, mais il faudra vraiment que le sujet se justifie. Le fait que le groupe majoritaire, c'est une règle en soi ou c'est simplement un raccourci pour dire que pendant la niche de Renaissance, ce sera toujours les textes du gouvernement. En fait, le groupe majoritaire n'a pas de niche, contrairement à ce que je pensais. J'avais oublié ce détail-là. Il n'y a pas de niche. Il y a ce qu'on appelle les semaines de contrôle. Enfin, les semaines de l'Assemblée, au cours desquelles, en fait, c'est un peu leur niche à eux tout le temps. Puisque, par définition, comme c'est le groupe majoritaire, c'est eux qui ont la main sur l'ordre du jour, en dehors des niches, avec le gouvernement. Ils le partagent avec le gouvernement. Donc, quand ils ont des propositions de loi, ils peuvent les déposer. Ils n'ont pas besoin d'une niche, en fait, le groupe majoritaire, puisqu'ils sont majoritaires, par définition. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu la proposition de loi sur la loi anti-squat, là, qui a été votée la semaine dernière. Ce n'était pas au cours d'une niche. Les séances en commission sont filmées, si on veut voir comment ça se passe. Oui, c'est filmé. Regarde, je vais te montrer. Tu vas sur le site de l'Assemblée nationale. Je vais te montrer. Hop. Tu vas sur le site d'internet de l'Assemblée nationale, tu descends, tu arrives dans l'Assemblée en vidéo. Tu cliques sur toutes les dernières vidéos. Et là, en haut, tu as la séance publique, donc ça, c'est l'hémicycle. Les questions au gouvernement, donc ça, c'est le stream de Jean Massier. Tu as les commissions, tu as la présidence, tu as les événements, tu as la connaissance, l'histoire, les documentaires, ce genre de conneries. Tu cliques sur commission, hop. Là, tu choisis par date ou par commission. Visiblement, ça change. Oui, c'est ça. Donc, tu choisis ta commission. Regarde, oh, il y a toutes les commissions. Tu choisis ta commission. Commission des affaires sociales, hop. Et là, tu as les dernières séances en commission. Donc le 6 décembre, c'était hier. Hop, tu as une séance de la commission des affaires sociales d'audition des représentants du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le COVARS. Et voilà, tu as la vidéo.
Véhiculé comme ça par la faune sauvage.
Pour ceux qui n'ont jamais vu.
La faune sauvage à de la faune d'élevage ou vecteur, potentiellement, on risque de véhiculer comme ça par la faune sauvage.
Je vous présente la commission des affaires sociales du Sénat, de l'Assemblée, pardon. Voilà, c'est une salle de commission. Vous avez la présidente de la commission, le rapporteur, la personne auditionnée, et là vous avez là où se mettent les députés pour bosser. Là vous avez les députés de la commission qui sont en train de bosser. Voilà. Et on peut suivre ces séances en direct si vraiment ça vous passionne. Alors, de mémoire, toutes les salles de commission ne sont pas équipées de caméras. Il y en a certaines, je crois, qui malheureusement n'ont pas de caméra et c'est chiant. Du coup, parfois, ils se rassemblent dans d'autres salles. Quand ils veulent faire des séances un peu importantes, ils se réunissent dans d'autres salles. Voilà. Laquelle des commissions pourrait-on qualifier de grosse commission? Blague à part, y a-t-il une commission supérieure aux autres? Non, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une question, encore une fois, d'opinion politique. Est-ce que la commission de la culture et de l'éducation est plus importante que la commission des affaires sociales? Est-ce qu'elle-même, elle est plus importante que la commission des armées, de la défense? Chacun, enfin, c'est votre opinion, genre, moi je m'en fous. Il y a deux commissions qui ont une importance quand même particulière par rapport aux autres. C'est la commission des lois et la commission des finances. La commission des lois, parce que c'est la commission qui s'intéresse notamment à l'organisation des pouvoirs publics, à la question des libertés, etc. Donc c'est une commission assez importante en fait. Et il y a la commission des finances, parce que c'est elle qui s'occupe des questions budgétaires et qui a même le pouvoir de retoquer les amendements budgétaires, etc. Donc voilà. La commission de la biodiversité, ça existe? Non, les questions de la biodiversité sont traitées dans le cadre de la commission du développement durable. Est-ce qu'il y a des commissions secrètes ou non publiques? Alors, il n'y a rien de secret. Il y a des commissions qui ne sont pas publiques et qui se tiennent à huis clos pour des raisons de secret défense. Donc, la commission de la défense, parfois, ça peut leur arriver de faire des réunions qui ne sont pas filmées volontairement parce qu'ils font l'audition d'un général sur. Par exemple, s'ils font une réunion sur l'état du matériel militaire français. C'est pas le genre d'info que tu as envie de donner en direct. T'essaies de. Voilà. Donc ça arrive. Donc c'est surtout pour les sujets défense, pour les espions, pour les renseignements. D'ailleurs, il y a une commission du renseignement qui s'occupe spécifiquement des questions de renseignement et elle, vous vous doutez bien par définition que c'est pas streamé. Bonjour, il s'est passé quoi en Allemagne aujourd'hui? C'est quoi un coup d'État? On a appris ce matin, j'ai pas plus d'informations que vous, hein, que la police allemande avait fait ce qu'on appelle un coup de filet, donc ils avaient fait plein d'arrestations coordonnées le même jour, de tout un tas de gens d'extrême droite qui, semble-t-il, d'après les premiers éléments qui ont été dévoilés, travaillaient à un projet d'attentat, de lutte armée, dans une optique de coup d'État. Qu'est-ce qu'on appelle un coup d'État? Donc, il prévoyait apparemment, de ce que j'ai compris, de s'en prendre au bâtiment, au Bundestag, donc c'est l'équivalent du Palais Bourbon en France, hein, donc c'est le siège du Parlement allemand, prendre de force les ministères, etc. Qu'est-ce qu'on appelle un coup d'État? Bah justement, c'est ça qu'on appelle un coup d'État. Un coup d'État, ça désigne une prise de pouvoir par la force. Voilà, par la force. C'est ça. Donc un coup d'État, Napoléon Bonaparte avait fait un coup d'État. Un coup d'État, tu prends des militaires, tu prends des chars d'assaut, tu te diriges vers la capitale et tu prends d'assaut, c'est le cas de le dire, les bâtiments, tu emprisonnes les personnes, les ministres, le président de la République, les membres du Parlement, tu suspends la démocratie, tu te fais pas chier à faire une campagne avec des arguments, des débats à la télé, des interviews dans Backseat, hein, tu vas directement avec ton flingue et tu dis maintenant c'est moi qui commande, bande de connards. C'est ça un coup d'État. C'est quoi la différence entre un coup d'État et un putsch? C'est une bonne question. C'est peut-être très similaire. Putsch, je sais pas. Un côté très militaire, mais en même temps coup d'État non militaire, ça existe? Oui, non, je sais pas. Ouais, putsch, c'est militaire. Non, c'est ça. Putsch, c'est des militaires qui prennent le pouvoir. Coup d'État, ça peut être des civils. Bah là, par exemple, on a l'extrême droite, visiblement, en Allemagne, c'était des civils, hein. Prennent des flingues et ils vont prendre le pouvoir, quoi. Le coup d'État de Pinochet, c'était militaire, donc c'était un putsch. Du coup, Napoléon, c'est un putsch et non un coup d'État. C'est une bonne question. En même temps, à l'époque, c'était une armée d'appelés en grande partie, donc je sais pas. Une bonne question. Et puis du coup, comment tu fais quand une partie de l'armée soutient le coup d'État? Est-ce que ça devient un putsch? Genre 1871, la Commune, c'était un putsch, ouais? Putain, j'en sais rien, je sais pas. Bon, hey, on est en train de sodomiser des gallinacés là. Hein. C'est quoi la différence avec l'insurrection? L'insurrection, il y a un caractère moins organisé, plus spontané, et il y a un caractère de mobilisation de la rue, de la foule. Non, un putsch, c'est pas forcément militaire. Ah ouais? Ah, Alors après, il y a aussi ce qu'on appelle les révolutions de palais. Les révolutions de palais, ce sont des coups d'État, mais sans la force des armes. Ça peut arriver, c'est dans l'histoire en France, dans toutes les monarchies du monde, il y a eu ce qu'on appelle des révolutions de palais, c'est-à-dire que dans l'espace feutré des palais du roi et de la cour, il y a une partie de la cour qui décide de changer de roi et qui force le roi à abdiquer ou qui le tue ou qui machin et qui met quelqu'un d'autre sur le trône. Il n'y a pas besoin de mobiliser l'armée ou je sais pas quoi. Voilà. Est-ce que tu sais comment est élu les députés en Iran? Non, c'est une bonne question. Non, bonne question, je ne sais pas. Je n'ai pas la mémoire du système politique iranien et du mode d'élection, je ne sais pas. Est-ce qu'un président en exercice peut faire un coup d'État? Oui. C'est ce qu'a essayé de faire, c'est ce qu'a essayé de faire Donald Trump, par exemple. C'était une tentative de coup d'État. Il était en exercice et il a souhaité le rester malgré le score des élections. Il a échoué, mais il a essayé. Il a essayé de garder le pouvoir par la force. Donc c'était pas de prendre le pouvoir par la force, mais c'était de le garder par la force. Où est-ce que c'est arrivé d'autres des coups d'État comme ça, des refus de résultats d'élection? En mode je m'en fous, je partirai pas, je boude. Dans l'histoire, il y en a eu plein des trucs comme ça. Il y a eu une tentative de coup d'État à la chute de l'URSS en 91, par la vieille garde communiste qui voulait pas l'effondrement de l'URSS. Nous reconstruirons le mur de Berlin. Napoléon III? Ouais. Ouais, Napoléon III, ouais. Oui, c'est vrai, Napoléon III, t'as raison. Ouais, il a perdu les élections. Et il a dit niquez-vous. Ça compte pas, c'était pour du beurre. Poutine qui met Medvedev pour lui garder la place au chaud, c'est tangent. Non, 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 Poutine qui met Medvedev, on peut pas parler de coup d'État, puisque les gens ont voté pour Medvedev. Donc les élections font que les gens ont souhaité maintenir la ligne politique de Vladimir Poutine en élisant Dimitri Medvedev. Donc, Pinochet, bonne question. Il a perdu les élections, Pinochet? Mais non, il y avait Allende. Il a fait un coup d'État, il a dégagé Allende. Il n'était pas déjà au pouvoir, Pinochet, je crois pas. Après, les scrutins en Russie sont difficilement crédibles depuis un moment. Oui. Alors, je rentre même pas dans la discussion de la validité des scrutins, etc. Oui, ça, Pinochet, il était général. Napoléon III a gagné les élections de 1848, mais son mandat était que de 3 ans et l'Assemblée était contre lui. Il a donc imposé en 51 par référendum une nouvelle constitution qui lui donne les pleins pouvoirs. En 52, autre référendum sur le Second Empire. Ok, d'accord. D'accord. C'est pas qu'il a perdu les élections, c'est qu'il a modifié la constitution pour se maintenir au pouvoir. Ok. Je me suis posé une question hier. Est-ce que la première dame peut être en plus députée ou maire? C'est une bonne question. À ma connaissance, ce n'est jamais arrivé, et pourtant, rien ne l'empêche. La première dame, l'épouse du chef de l'État, je dis ça parce que c'est toujours des hommes, les chefs d'État jusqu'à présent, donc on n'a pas encore connu de premier homme. Les premières dames, à ma connaissance, n'ont jamais eu de mandat, mais en fait, le première dame, ce n'est pas un statut officiel. Y a rien qui prévoit un rôle particulier pour la première dame, si ce n'est un rôle de représentation diplomatique lorsque le chef de l'État est invité avec son épouse à des rencontres diplomatiques, à des voyages à l'étranger et tout. Mais la première dame n'a pas de rôle politique, ce qui fait que c'est une citoyenne comme les autres, elle peut parfaitement librement, se présenter à une élection et être élue. Rien n'empêche la première dame d'être députée. Bernadette Chirac, elle a été conseillère départementale, mais après le mandat de Jacques Chirac, de mémoire. Elle a été élue en Corrèze, conseillère départementale, de mémoire, mais après 2007. Arrêtez-moi si j'ai une connerie. Non, pendant? Ah, bah alors si je me trompe, on a un contre-exemple alors. Bernadette Chirac. Ah, était conseillère départementale depuis 79. Ah, je m'étais mis dans le crâne qu'elle avait été élue après. Ah non, mais 79, putain. Ah ouais. Eh bé. Eh ben voilà, eh ben il y a un contre-exemple. Donc voilà, bah, tu as la réponse à ta question. Bernadette Chirac, elle était conseillère départementale de ce beau département de la Corrèze, tout en étant l'épouse du chef de l'État, comme quoi rien ne l'empêche. Ah putain, j'avais complètement zappé que Bernadette Chirac, elle avait été élue aussi longtemps. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Ça crée pas de situation de conflit d'intérêts? Ah bah non. Non, tu as parfaitement le droit d'être marié à une personne qui a un autre mandat que le tien. Pas de conflit d'intérêt. Anémone Giscard aussi, elle était élue? Sérieux? C'est vrai que je sais pas du tout qui était la femme de Giscard. Anémone Giscard. Si la première dame est PDG de Total, là c'est différent. Ah ouais. Ouais. Ça a beau ne pas être un statut, ils ont droit à un bureau. Oui, non, en fait c'est pour des raisons d'organisation et de logistique. C'est-à-dire que la première dame, elle n'a pas de statut officiel, mais le fait est qu'elle reçoit du courrier, qu'elle est sollicitée par plein de gens, qu'elle se déplace avec son époux, notamment dans les déplacements à l'international ou même en France, et que donc ça nécessite de coordonner son activité, son agenda. Donc c'est la raison pour laquelle elle a à sa disposition un secrétariat, un collaborateur, une collaboratrice. Peut-être deux parfois, et un garde du corps, parce que c'est une personnalité exposée, comme je vous avais déjà parlé, les personnalités exposées peuvent bénéficier d'une protection rapprochée. Voilà. Elle n'a pas de salaire. Non, la première dame ne reçoit pas d'indemnité. Non, pas à ma connaissance. Alors là, pour le coup, ça me choquerait. Ça me choquerait. N'ayant pas de mandat, je vois pas pourquoi elle bénéficierait d'un revenu. D'après Wikipédia, la femme de Giscard a été élue aussi. Eh ben, je savais pas, tu vois. On en apprend tous les jours. La première dame ne cotise donc pas. Alors, je vais pas de man je vais pas de je vais pas manquer de respect à la première dame, mais je crois qu'elle est déjà retraitée de l'éducation nationale. Défrayée sans doute. Bah, à partir du moment où le chef de l'État est hébergé, logé, nourri avec ses proches, oui, la première dame, c'est sa proche, donc oui, c'est oui. Quand la première dame se fait un café le matin pour se réveiller, c'est un café qui est payé par le contribuable. Oui, enfin, c'est l'épouse du chef de l'État, quoi. Ils vont pas faire machine à café à part. Pour ses robes, elle doit avoir un budget. Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les frais de représentation. La première dame, quand elle est invitée à un cocktail en compagnie de son époux, enfin, quand elle est invitée à accompagner son époux à une rencontre avec Joe Biden et son épouse, je suppose que dans les frais de représentation, on fait en sorte qu'elle ait une robe qui corresponde au carton d'invitation des standards de la Maison Blanche. Tu vois, j'en sais rien, mais bon. C'est ce qu'on appelle les frais de représentation. Donc voilà. Du coup, elle peut rentrer dans l'assemblée pas son mari. Ouais. Bien vu. Elle a le droit de rentrer à l'assemblée. Il n'y a pas de débat sur le coup de la première dame. De débat, enfin, je n'en sais pas un sujet qu'on aborde tous les matins, je t'avoue. Il y a toujours des gens qui sont ulcérés, mais bon, pas de remise en cause fondamentale. Les frais, d'une manière générale, hein, le budget de l'Élysée a longtemps été l'objet de critiques, parce que c'était très peu contrôlé, voire pas contrôlé, pour des raisons de séparation des pouvoirs, machin. C'était le bordel et tout. Ça a longtemps été le bordel, hein, la gestion le pognon de l'Élysée. Quand Nicolas Sarkozy était président de la République, le président du groupe d'opposition à l'Assemblée, du principal groupe d'opposition, s'appelait François Hollande. Et François Hollande, lorsqu'il était député d'opposition à Nicolas Sarkozy, critiquait tout le temps l'utilisation faite par Nicolas Sarkozy de l'argent du contribuable. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a combien de collaborateurs? Pourquoi est-ce que le budget de l'Élysée explose? C'est n'importe quoi, machin, machin. Quand François Hollande est devenu président de la République, à son tour, bah, il a décidé d'essayer autant que possible de rester cohérent vis-à-vis des critiques qu'il a émises par le passé. Donc, il a décidé d'avoir une gestion beaucoup plus stricte des dépenses de l'Élysée. Et il a fait quand même pas mal le ménage, François Hollande, dans le budget de l'Élysée. Il a normalisé plein de trucs. Il a bien rationalisé le truc. On peut reconnaître ça à François Hollande, quelle que soit l'opinion qu'on porte sur son mandat politique. L'Élysée était quand même vachement mieux gérée sous la présidence de François Hollande que par le passé. Et c'est pas particulièrement contre Sarkozy, hein, c'est même avant. Et voilà. Et donc depuis, c'est mieux. La preuve, ils faisaient des déplacements en scooter. Ouais. De mémoire, il y a quelques années, il y avait une proposition de créer un statut officiel de première dame, premier homme. Ouais, je sais plus, ça me rappelle un truc, mais je sais plus, t'as meilleure mémoire que moi, toi? Je sais plus qui avait proposé ça. Bon, pareil, on avait dû en parler pendant 2 jours, on était passé à autre chose. Encore une fois, c'est pas méga important. Mieux géré, comme quand le secrétaire général faisait passer le cirage de ses chaussures en frais professionnels. Alors, il n'était pas secrétaire général, celui dont tu. Je crois pas, il était secrétaire général adjoint, je sais plus. Et il a été viré, surtout. Quand je dis que Hollande gérait mieux l'Élysée, c'est que quand quelqu'un déconnait à l'Élysée, il était viré. C'était ça la nouveauté. C'est ça l'invention de François Hollande. François Hollande, quand les gens étaient épinglés par Mediapart, il les dégageait. Pas tous. Mais voilà. Donc vous pouvez lui en vouloir si vous voulez, mais enfin bon, reconnaître que. La procédure pour obtenir le chèque de 100 euros que propose Elisabeth Borne ne rappelle pas trop la promotion des grandes surfaces où la procédure est si complexe, enfin qu'une proportion de nécessitant. Bon, je sais pas. Je sais pas, je connais pas la procédure en question. Le pas tous, pour moi, ça veut tout dire. Écoute, c'est toi qui vois. Hein. Si tu veux voir le monde en noir et blanc, je te dis juste qu'il y avait du mieux. Je te dis que tout n'était pas parfait, mais il y avait du mieux. On peut dire que c'était pas suffisant. Mais bon, ça. Bon. Il y a des nuances de gris entre le noir et le blanc. Merci de me remonter le moral dans ces moments qui vont pas trop. T'inquiète, je suis là pour toi, pas de souci. Qui décide du budget de l'Élysée? C'est voté dans les frais de fonctionnement dans le budget. Le fonctionnement du budget de l'État. Ah oh putain, un jour faudra que je fasse un live ou une interview sur ce sujet parce que ça répond à des normes. Il y a des modes de fonctionnement. Le budget de l'État, il est voté par mission et on répartit les crédits par mission. Il y a une méthode de décision, de calcul, de vérification, etc. Il y a des principes de contrôle de l'effectivité du budget. Il y a des justifications dès le premier euro, etc. Bref. L'Élysée n'échappe pas à la règle il a un gestionnaire, l'Élysée, comme tous les ministères, comme tous les... Enfin, un gestionnaire, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Hein. C'est un peu plus compliqué qu'un gestionnaire de collège. Mais s'il veut plus d'argent, il doit justifier pourquoi il veut plus d'argent. Et il y a des procédures de vérification, de discussion de la légitimité ou pas de l'argent supplémentaire. Le budget, c'est le ministère des Finances publiques. C'est le Parlement qui vote le budget. Il est construit et conçu en lien avec le ministère des Finances publiques. Le ministère de la Moulaga des Français. Mais c'est le Parlement qui est en débat et qui en décide. Donc au bout du bout du bout, si les députés ne veulent pas accorder de rallonge de budget à l'Élysée, ils peuvent très bien. Mais l'Élysée peut demander un peu plus de pognon en justifiant du fait que l'année prochaine... La France présidera, par exemple, la France a la présidence tournante de l'Union européenne, là, du Conseil des ministres de l'Union européenne. On aimerait bien avoir trois ou quatre postes supplémentaires pour gérer ça. Bon, bah, les députés peuvent dire oui, effectivement, circonstances exceptionnelles. Bah alors, on tweet pas son live. Non, j'ai pas tweeté mon live, pardon. Excusez-moi, Twitter. C'est quoi les actualités politiques sur les intermittents du spectacle? À ma connaissance, il n'y a pas d'actualité spécifique sur le régime d'indemnisation chômage de l'intermittence. Je ne sais pas. Je ne sais pas si des trucs ont été décidés dans le budget. J'en ai pas vu passer, donc c'est que ça doit pas être. Je sais pas. Quel type de contrat de travail ont les ministres? Les ministres n'ont pas de contrat de travail. Un contrat de travail, c'est un document juridique qui lie un salarié à son employeur dans le cadre du droit du travail. Donc, ça répond à une gestion juridique spécifique. Il y a des rapports de subordination, il y a des devoirs, il y a des obligations, il y a des droits, etc. Le droit du travail, c'est un régime juridique propre au travail. Mais il n'y a pas que le contrat de travail qui permet d'avoir une activité. Une profession libérale, un médecin, un avocat, un consultant, n'a pas de contrat de travail. Il n'a pas de contrat de travail. Il a une entreprise. Moi, je n'ai pas de contrat de travail. Mais je me verse un salaire. Un fonctionnaire n'a pas de contrat de travail. Un fonctionnaire, il a un traitement, il a un statut dont découle un traitement. Un militaire n'a pas de contrat de travail. Il a une solde en échange d'un service qui s'organise dans le cadre de la contractualisation des militaires, etc. Je rentre pas dans le détail, mais ce n'est pas un contrat de travail au sens de contrat de droit privé que vous avez, que vous signez avec votre employeur, je ne sais pas où vous bossez, mais voilà. Un ministre, c'est une fonction. C'est pas un mandat. C'est une fonction. Il n'y a pas de contrat de travail, donc il n'y a pas de salaire. Il y a un revenu, oui, qui s'appelle une indemnité. Un gouvernement peut-il faire passer toutes les lois qu'il désire grâce au 49-3? Non. Non. Le 49-3 ne permet de faire passer qu'une loi par an en dehors des lois budgétaires. Une solde, pas un solde. Ah, j'ai dit un solde, pardon, une solde. La solde, oui, la solde des militaires. C'est quoi le meilleur moyen de s'informer sur la politique selon toi? Il y a un mec sur Twitch qui s'appelle Jean Cassé, Jean Cassier, je sais plus, qui fait un contenu plutôt très cool. Il fait des émissions tous les jours pour s'informer sur l'actualité politique. Tu devrais le suivre, voire même t'abonner. Alors pourquoi on est à 6? Le 49-3. est une procédure constitutionnelle qui permet au gouvernement de faire adopter une loi à l'Assemblée nationale et seulement à l'Assemblée nationale. Or, une même loi peut passer plusieurs fois à l'Assemblée nationale. C'est le principe de la navette parlementaire. Première lecture, retour du texte, deuxième lecture. Donc, un 49-3 ne peut être utilisé que pour un texte de loi, mais autant de lectures qu'il faudra pour ce texte de loi. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, Elisabeth Borne a fait usage du 49-3 dans le cadre des lois budgétaires. Et je vous rappelle que dans le cadre des lois budgétaires, il n'y a pas de limite de 49-3. C'est réservé au budget, mais il n'y a pas de limite dans les budgets. Et en l'occurrence, les budgets ont un mode d'adoption spécifique qui fait qu'on les adopte en plusieurs parties. Et elle a le droit d'utiliser le 49-3 pour toutes les parties si elle le souhaite. C'est pour ça qu'on dit il y a eu X, 6, 7, 8, 49-3. Moi, je vous conseille d'arrêter de les compter parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est le nombre de textes. Est-ce qu'on peut changer une loi organique avec un 49-3? Non, parce que une loi organique doit être adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et comme le 49-3 n'est pas possible au Sénat, attends, je vérifie ce truc-là. L'Assemblée nationale. Ah non, si, si, si. L'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot, mais à la majorité absolue de ses membres. Et non pas la majorité simple. Ok. L'accord du Sénat est nécessaire pour l'adoption de lois organiques qui lui sont relatives. Ouais, c'est ça. C'est uniquement sur les lois qui concernent le Sénat. Ouais. Je sais pas si le 49-3 est utilisable pour une loi organique. Je pense pas. C'est quoi une loi organique? Pardon, excusez-moi. Une loi organique, c'est quoi? C'est une loi cadre, c'est une loi organisationnelle qui précise les modalités d'application de la Constitution. Donc c'est une loi un peu importante. C'est un peu plus important qu'une loi, mais c'est moins important que la Constitution. C'est une loi qui précise l'application de la Constitution. Et c'est une loi qui a donc attrait au pouvoir public. C'est un peu important. On ne les change pas tous les matins, les lois organiques. C'est des sortes de sous-constitutions, si tu veux. Je me suis toujours demandé quelles étaient les conséquences pour un député qui subit un rappel au règlement lors d'une séance. Alors, le rappel au règlement, ce n'est pas un truc que subit le député, c'est un truc que peut faire le député s'il le souhaite. Les députés ont la possibilité, au cours des débats, de faire un rappel au règlement, donc de prendre la parole pour soulever un point de procédure sur les débats en cours. Ça répond à des règles et des machins et tout. Un député peut être rappelé à l'ordre. Un député peut être rappelé à l'ordre. Il y a deux types de rappel à l'ordre. Il y a le rappel à l'ordre simple, donc qui est prononcé par le président de séance ou la présidente de séance contre un député qui se comporte mal, par exemple. Donc il peut être rappelé à l'ordre par le président, lui demandant de se calmer. Et il y a le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Ce qui ne veut pas dire grand-chose pour le commun des mortels, mais ce qui, dans le jargon, veut dire possibilité de. C'est une sanction où le député perd une partie de son indemnité du mois. On lui retire du pognon en fait. C'est une amende, on peut dire ça comme ça. Bon, plutôt que de le faire payer une amende, en fait, on lui retire une partie de son indemnité. Je sais plus combien, c'est un tiers, la moitié? Je sais plus. Voilà. Ça n'arrive pas tous les matins, hein. Les rappels à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ça arrive pas tous les matins. C'est rare. La précédente mandature, il y avait dû en avoir 4 ou 5 à tout péter en 5 ans. Faut vraiment que le député déconne hein, pour qu'il y ait. C'est un quart, c'est 25%? Ah oui, non, c'est ça. C'est 25% et ça peut aller jusqu'à la moitié en cas de récidive. Je crois que c'est ça. C'est la France insoumise souvent cette année. Souvent, non. Non, 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 non. Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, il y en a eu un ou deux depuis le début de l'année, mais c'est pas souvent. On n'a pas un... On n'a pas une comptabilité? Alors, dans quel cas est-ce qu'un député peut être rappelé à l'ordre? C'est précisé par le règlement intérieur de l'Assemblée, par le règlement de l'Assemblée nationale, c'est précisé. Article 70, un député peut être rappelé à l'ordre, une peine disciplinaire pour tout membre de l'Assemblée, qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse. Donc le député qui s'agite un peu trop et qui est en mode vas-y, viens, je t'en mets une. Qui se livre à une mise en cause personnelle qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces. Donc je te fume la gueule à la sortie de la séance. Ça peut faire l'objet d'une peine disciplinaire. Provocation, menace, mise en cause personnelle. Voilà. Qui fait appel à la violence en séance publique. Le mec qui dit il faudrait les tuer ces gens-là ou je sais pas quoi, machin. Qui s'est rendu coupable d'outrage ou de provocation envers l'Assemblée ou son président. Ça doit rappeler ça doit être un truc qui rappelle l'époque où il y avait des députés monarchistes qui du coup détestaient l'Assemblée nationale par définition et détestaient la République. Donc, il devait prendre la parole pour dire: Vous êtes tous des cons, l'Assemblée n'a pas de légitimité, vous êtes tous des connards. Voilà. Et enfin, qui s'est rendu coupable d'injures, de provocations ou de menaces envers le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution. Donc, le mec qui dit: Ouais, les sénateurs, cette bande de putes et tout. Mais alors, oui. Donc, voilà. Les peines disciplinaires. Et qu'il rentre en Afrique, du coup, donc c'était la fameuse saillie raciste de Fournas, le député RN, ça devait rentrer dans... l'appel à la violence, l'injure, la provocation. Manifestation troublant l'ordre. Le tumulte. Est-ce qu'on risque une peine si on propose très poliment de supprimer le Sénat dans la Constitution? Non. Non, non, tu risques aucune peine. Hein. Il y a déjà des députés qui l'ont fait. Hein. Y a-t-il un cas où un député peut être suspendu définitivement de sa fonction? C'est une bonne question. Ah non, je me suis trompé tout à l'heure dans ce que je vous ai dit sur le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Le député, on lui retire un quart de son indemnité parlementaire du mois. Et là où je vous parlais de la moitié, c'est dans le cadre de la censure. C'est encore une autre peine disciplinaire. Retrait de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant un mois. Avec une peine d'inéligibilité. Alors la peine d'inéligibilité ne met pas fin au mandat. La peine d'inéligibilité met fin à la possibilité de se présenter aux élections. Mais en général, c'est assorti d'une... Non, c'est une bonne question. Exclusion. Définitive député. Tiens, c'est vrai, ça. Est-ce qu'on peut définitivement virer un député? Visiblement, il n'est pas possible de renvoyer un député, ce qui est logique. Compte tenu du fait que les députés sont au. C'est la fameuse phrase de. Comment il s'appelait? Mirabeau. Nous sommes ici par la volonté du peuple. Il n'y a rien de plus fort que la volonté du peuple en démocratie, donc un député, on ne peut pas le virer en fait. Seul le peuple peut décider de ne pas le réélire. Même la proposition de la France insoumise pendant la présidentielle de référendum révocatoire. La révocation des élus, c'est bien une décision des électeurs. Voilà. Mais il existe cependant un cas de figure dans lequel un député peut être poussé vers la sortie. Je cite, le bureau de l'Assemblée nationale peut seulement saisir le Conseil constitutionnel si le parlementaire est en situation d'incompatibilité pour cumul, par exemple. Le parlementaire a alors un mois pour se mettre en conformité, sinon le Conseil constate la déchéance. D'accord, le Conseil constitutionnel peut prononcer la déchéance. Ok. De la même façon, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le garde des Sceaux si un élu est condamné au pénal avec une peine d'inéligibilité de façon définitive. Cela avait été le cas pour Sylvie Andrieux, condamnée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de 4 ans de prison assortie de 5 ans d'inéligibilité pour avoir versé 700 000 balles d'argent public à des associations fictives de sa circonscription. La députée avait d'abord refusé de quitter son siège, finalement elle avait démissionné avant que le Conseil ne se prononce. Ah oui, d'accord. Pour éviter l'humiliation de recevoir la déchéance du Conseil constitutionnel, elle avait dit non, bah, puisque c'est comme ça, je me barre. D'accord. Donc effectivement, la déchéance ne peut être prononcée que par le Conseil constitutionnel, qui peut être saisi par le garde des Sceaux à l'issue d'une condamnation pénale, par exemple. Ouais. Puisque vous allez me virer, je démissionne. Oui, voilà, c'est ça. Dans certains cas. Oui, dans certains cas et dans certains cas seulement. Bref, c'est quand même très protégé le mandat de député, et c'est normal, puisque c'est fragile. C'est la décision du peuple, et on ne peut pas prendre ça à la légère. On ne peut pas passer derrière la volonté du peuple en disant le peuple a décidé que ce serait lui le député, mais nous, on pense qu'il ne faudrait pas que ce soit lui. Donc le Conseil constitutionnel est plus fort que le peuple. Fictivement, c'est non, c'est justement même l'inverse. Le Conseil constitutionnel veille au respect de la volonté du peuple exprimée dans la Constitution. Or, dans la Constitution, il y a des conditions pour être député, et si tu ne remplis plus les conditions, alors tu peux être déchu, en application de la volonté du peuple. Tu vois? Il n'y a pas une immunité parlementaire, si, mais elle peut être levée. Est-ce qu'on peut déchoir un président en exercice? Oui. Oui. Pareil, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique la procédure pour virer un président de la République. Je voulais savoir si la France est bien un régime unitaire centralisé. Unitaire, je sais pas ce que ça veut dire. Centralisé, non. C'est écrit dans la Constitution dès l'article 1, la France est une république décentralisée. Donc il y a un État qui agit, y compris dans les territoires, via les préfectures, mais il y a aussi des collectivités locales, territoriales, comme on dit, qui ont des compétences propres. Unitaire, ça veut dire pas fédéral. Donc oui, de ce point de vue-là, oui, la France n'est pas une fédération. La France n'est pas une fédération des régions françaises qui se fédèrent pour créer ensemble un pays qui s'appelle la France. La France est un État-nation, comme on dit. Mais c'est un régime politique décentralisé. Est-ce que le peuple peut virer son député pendant son mandat? Non. Il n'existe pas de révocation des élus par les électeurs. La seule possibilité, c'est de changer de député aux prochaines élections. La gestion de l'État a toujours été à Paris. Non. Il y a eu Versailles. Il y a eu Vichy. Il y a eu Bordeaux. Alors si tu remontes à la monarchie, alors là, il y a tout eu. Londres, il y a eu Londres, n'oubliez pas Londres. Non, mais enfin, bref, depuis la Révolution, non, mais attends, non, on va simplifier le truc parce que là, vous commencez à partir, il y a des mecs qui disent, oui, il y a eu Rome, hein, pendant très longtemps, c'était Rome qui gérait, oui, c'est vrai, c'est vrai. Rome a quand même géré le bordel pendant un millénaire, oui, c'est vrai. Non, pas un millénaire, quelques siècles. Mais depuis la Révolution, donc comme ça nous permet d'éviter de parler des rois Reims, Fontainebleau, Blois, oh là là, l'enfer. Depuis la Révolution, il y a eu Paris, il y a eu Versailles, il y a eu Saint-Cloud. Enfin, oui. Il y a eu Bordeaux, très peu de temps. Il y a eu Vichy. Enfin, Vichy, oui. Bordeaux, c'était en 1940, pendant la débâcle, avant Vichy. Ça n'a pas duré longtemps, hein, mais le gouvernement s'est réuni à Bordeaux, et les parlementaires aussi. Libreville. Ah, pour les forces françaises libres. Ah ouais, maintenant que tu le dis. Oui, mais alors oui, non, mais d'accord, mais enfin, c'est ça le problème, c'est que dans les circonstances particulières de la Seconde Guerre mondiale, disons que selon comment tu regardes les choses, alors on va essayer de mettre tout le monde d'accord, selon comment tu regardes les choses, la France était dirigée depuis Berlin, Vichy, Londres, Alger, Libreville, voilà. voilà. Et si tu demandes à François Asselineau, il te dirait Washington. Cheminade, il dirait Mars, c'est vrai. Et Philippot, il dirait Bruxelles. Et moi, je dirais le 7e arrondissement. Mélenchon, il dirait Wall Street. Je sais pas qui dirait Davos. Zemmour, il dirait la Mecque. Ouais. Ouais. Non, mais... Wall Street, c'est New York. Ah, mais c'est une rue de New York même, c'est très précis, hein. Wall Street. Peut-il y avoir une saisie de matériel sonore lors d'une manifestation? Je crois, oui. Enfin, dans le cadre d'une manifestation non déclarée qui trouble l'ordre public et sur décision du préfet, les forces de police peuvent être amenées à confisquer du matériel. Oui. Oui. Enfin, je pense, là, excuse-moi, c'est un peu du droit pénal, au doigt mouillé, mais je suppose. C'est pour ça, ah oui, si vous faites une manif non déclarée, je me permets de vous suggérer d'éviter de louer un camion et une sono. Une chance non négligeable que vous ne le retrouviez pas, le truc. Déjà que dans les manifs déclarés, c'est pas sûr que ça revienne en bon état, vous allez peut-être que la caution, elle va sauter. Mais ouais. Comment se déroule la succession du président en cas d'incapacité à gouverner? C'est le Premier ministre qui prend le relais et ensuite. Non, en cas de vacance du pouvoir, comme on dit, on appelle ça la vacance du pouvoir. En gros, si le président de la République décède, et c'est déjà arrivé, je vous le rappelle, si le président de la République démissionne ou si le président de la République est empêché, alors empêché, ça veut dire par la maladie, par exemple, donc il n'est pas mort, mais il est dans le coma. Il n'est pas mort, mais il est retenu prisonnier, je sais pas, par un État avec qui on est en guerre. À ce moment-là, la présidence de la République est assurée par intérim par le président du Sénat. Le président du Sénat ne devient pas président de la République. Attention, soyons précis, on fait du droit là. Attention les juristes, hein. Il ne devient pas président de la République, il assume l'intérim de la présidence de la République. Ce n'est pas la même chose. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de pouvoirs qu'il n'a pas, à la différence d'un président de la République qui préside la République. Il n'a pas le pouvoir de dissolution. Il y a deux, trois autres trucs. Il n'a pas le pouvoir de nomination, je crois. Il peut pas ne pas réunir le Parlement parce que le Parlement se réunit de plein droit. Il n'est pas le chef des armées et en même temps, je crois que si. Il peut pas utiliser l'article 16. Ouais, il peut pas utiliser l'article 16. Je sais pas s'il peut utiliser les troupes, parce qu'il y a quand même un principe de permanence de la souveraineté de la nation. Ou si la nation est attaquée, on peut pas dire ah bah non, désolé, je peux pas. Non, non, il y a quand même un peu un principe de sécurité de. C'est quoi l'article 16? C'est les pouvoirs exceptionnels. C'est un truc particulier en cas de crise. Bref. Et qu'est-ce qu'il fait le président du Sénat, enfin le président du Sénat qui assume l'intérim de la présidence de la République, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il ne fait qu'une seule chose, c'est organiser des nouvelles élections, c'est tout. Il fait que ça. Donc c'est déjà arrivé. Il y a eu un président du Sénat qui a assuré l'intérim à deux reprises. D'ailleurs, c'était le même président à chaque fois. Qui a eu de la chance, hein, il l'a eu deux fois. La première fois, c'était le décès de. Non, pardon, c'était la démission de. Charles de Gaulle, en 69, puis le décès de Georges Pompidou. Et il s'appelait Alain Poher, le président du Sénat, et donc il a assuré l'intérim à deux reprises. Et combien de temps ça a duré à chaque fois? À peine 2 mois. Donc en vrai, c'est très rapide. Pas le temps. Pas le temps, pas le temps de. De toute façon, c'est pas compliqué. T'as pas le temps de t'habituer au lit à l'Élysée. D'ailleurs, je pense que tu continues à dormir au Sénat. Pas la peine de déplacer tes valises, ça va pas durer longtemps. T'emmerde pas, hein, change pas la moquette. Hein, de toute façon, tu vas pas t'habituer. Sauf si t'es candidat. De toute façon, t'as aucun pouvoir d'initiative parce que t'as pas de majorité. C'est pas toi qui avais une majorité, c'était le précédent. Donc c'est pas la peine d'essayer de lancer des réformes, tu seras plus là et puis machin. Et puis de toute façon, on est dans un contexte de crise politique qui fait que, il faut vite faire une élection et passer à autre chose. Pour quelle raison il a démissionné de Gaulle? Charles de Gaulle a démissionné parce que les Français ont eu l'outrecuidance de voter non à un référendum qu'il avait déclenché. Il était vexé. Vous l'avez vexé avec vos conneries. Le mec, il fait un référendum. C'était un projet sur la régionalisation à l'époque. Ça modifiait les compétences du Sénat et tout. Bon, je rentre pas dans le détail, mais peu importe. C'était un référendum un peu lambda. De Gaulle, il fait un référendum. Il dit aux Français, si vous votez non, je quitterai la présidence de la République. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Français? Ils ont voté non. Oh! De Gaulle, il a dit, puisque j'ai été dédit par le peuple français, je remets ma démission à l'instant. Je ne peux plus être le chef d'une république qui a voté non. Il est parti. Il est mort 2 ans plus tard. Il était un peu chafouin. Il était un peu chafouiné, on va pas se mentir. En même temps, on était en 1969, année érotique. Il y avait eu mai 68. Les femmes commençaient à porter des mini-jupes. Les étudiants se laissaient pousser les cheveux. C'était la guerre du Vietnam. C'était le début du rock and roll. La société était en train de changer et le vieux général, là, dans son costard bien droit, ça commençait doucement à péter les burnes à tout le monde. Tout ça, la modernité, tout ça, le monde change, le vieux monde, tout ça. Casse-toi, De Gaulle et ta clique. Les vieux, là, barrez-vous. Ça, tout ça. C'était le wokisme. Ah, c'était une révolution woke, hein, mai 68. Imagine De Gaulle revient aujourd'hui. Oh, t'imagines? De Gaulle revient aujourd'hui. Première interview du chef de l'État. Backseat. Waouh! On lui coupe la parole et tout. Il fait oh! D'où ça coupe la parole là? Oh! Quand Charles de Gaulle parle, tout le monde ferme sa gueule et applaudit. Alors, excusez-moi, monsieur De Gaulle, mais en fait, ça a un peu changé l'ambiance depuis. C'est plus trop vous qui faites les interviews, en fait. Maintenant, les journalistes, ils peuvent poser des questions, tout ça. Ouais, ah, c'est chiant. Hein. Comment ça, j'ai pas les questions avant? C'est ça. Quelles seront les questions du chat? Pouvez-vous nous les transmettre par écrit une semaine avant l'émission, s'il vous plaît? Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu les conférences de presse de Gaulle. Je vais vous montrer ça quand même, c'est des archives. Il faut se rendre compte de ce que c'était que le pouvoir gaullien, hein, quand même. Quand même, quand même. C'était De Gaulle qui décidait des thèmes de la conférence de presse. Pendant la conférence de presse. Ah, on l'a en intégralité.
Messieurs, je pense que nous aurons.
Alors, attendez, on va reprendre depuis le début. On est au Palais de l'Élysée, avant rénovation. La salle est blindaxe. Tous les journalistes dans la salle sont assis sur des petites chaises, etc. Il n'y a évidemment que des bonhommes. Hein, c'est le festival de la saucisse. On n'est pas en mode féminisme, machin, loi sur la parité et tout. Et le président de la République est installé derrière son pupitre, derrière son bureau. Il est le seul à avoir un bureau. Tous les autres, ils prennent des notes sur leurs genoux. Voilà. Il y a une femme devant. Ah oui, il y a une femme là. Bon, bah il va la snober, il va dire messieurs. Alors on n'est pas très très écriture inclusive. Hein. De Gaulle, c'était pas trop les bails. C'était la conférence de presse de 1961. Donnez-moi vos questions. Avant. C'est juste pour des questions d'organisation.
Je leur demande de me les poser dès à
Moi
présent.
aussi, je devrais faire ça quand je fais mes streams. Je devrais vous demander à l'avance de me poser des questions et quelles sont les blagues que vous avez l'intention de faire au cours de ce stream, de manière à ce que nous organisions bien, à ce que ce soit bien organisé ce stream. Attention, hein. Je me trouve un peu trop lâche avec vous. Hein. Gouvernement provisoire révolutionnaire d'Algérie, c'est ça? On était en 61 avant les accords d'Avignon. Il dit... Enfin, genre... Enfin, c'est... Il dit bien ce qu'il peut vouloir dire à la fois j'ai entendu... Et bonne question. Genre, c'est vraiment le... Putain, les rires dans la salle. Ah, je m'y attendais pas. Parce qu'en plus, la question est une bonne question. C'est une question calendrier. Parce que là, tous, ils posent des questions un peu dans le vent, tu vois. Et elle demande... en fait, elle renvoie le président de la République à une déclaration passée dans laquelle il avait pris l'engagement de résoudre le problème avant la fin de l'année, donc elle lui ressort le truc. En fait, elle pose la question du calendrier, qui est toujours une question un peu tendue en politique. Et les mecs se marrent, quoi. C'est probablement une des meilleures questions. Oh la vache. Je m'attendais tellement pas à ça. Pour lui, où il s'en souvient de toutes les questions avec sa mémoire d'éléphant. Mais je crois qu'il s'en branle, en fait. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il fait une conférence de presse Pour parler de sujets internationaux, on est en 61, on est en plein dans une crise, machin, c'est important. Enfin, vous avez entendu les sujets, on parle d'essais nucléaires, du RSS, de la partition de l'Allemagne quand même, mur de Berlin, tout ça. La question algérienne, on est au moment des accords d'Évian. Le GPRA, les Nations Unies qui prennent des positions sur l'autodétermination des Algériens, etc. Enfin bref. Donc il fait une conférence de presse pour reprendre le contrôle de la situation. Et en fait, il fait littéralement semblant de faire une conférence de presse parce qu'il demande aux journalistes de commencer par poser des questions. Il prend aucune note. Il sait très bien qu'en fait, il va se lancer ensuite dans un monologue de je t'explique et il va faire un monologue sur la situation internationale qui commence à 4 minutes.
Séquestration, de spoliation et d'humiliation à
Et qui se termine à 49 minutes. Donc, tu as trois quarts d'heure de monologue du président de la République avant la première question de journaliste. Et donc, voilà, il fait un exposé. Et voilà. Emmanuel Macron, quand il faisait ses conférences de presse à l'Élysée, il faisait combien de temps Il faisait combien de temps? Vous vous souvenez, c'était en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Je me souviens, il faisait quoi? Il faisait 20 minutes, 15 minutes d'introduction et ensuite masse questions des journalistes, y compris des questions qui piquent. Enfin, il faisait un petit propos d'introduction et ensuite il enchaînait. Mais pourquoi je retrouve pas? Il y a tous les discours à l'Élysée, mais moi je cherche la conférence de presse, là, celle qu'il avait faite, je me souviens. On l'avait faite en stream, là. Derrière son petit bureau blanc. C'était quand? C'était en juillet. Macron, conférence de presse. Juillet 2022. Non, mais ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Fuck. Peut-être dans les archives de la chaîne. De ma
Mes
chaîne à
chers
moi?
compatriotes,
Chut, chut. Hop. C'était sur le calendrier des réformes et tout, j'en souviens. Vidéo. Mise en ligne. Crimée, Conseil des ministres, réunion de rentrée des recteurs d'académie. Rencontre avec la communauté française. Ça, c'est les allocutions, Conseil des ministres, on s'en branle. Je sais plus. Bon, bref. C'est plutôt récent que ça change le ton des conférences de presse présidentielles. Mitterrand, c'était encore très vertical. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Jacques Chirac faisait des entretiens, des interviews télévisées aux 20h plus fréquemment que Mitterrand. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a vraiment inventé la conférence de presse contemporaine du chef de l'État avec des députés, avec des journalistes pardon, qui posent des questions, y compris des questions qui fâchent. Et ça a été maintenu avec François Hollande, puis avec Emmanuel Macron. Mais c'est vraiment, je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui a vraiment imprégné un truc un peu différent dans la communication de l'Élysée de ce point de vue-là. Et seulement de ce point de vue-là. Après, il y a d'autres trucs qu'on, voilà. Et toi, c'était comment quand tu recevais Charles de Gaulle? Moi, à Charles de Gaulle, quand il venait à la maison, c'était juste pour boire des bières et voilà, c'était perso, donc c'était mon Charlot, quoi. On rigolait et tout. Et quand on faisait des émissions sur Twitch avec Charles de Gaulle, il avait un peu du mal à lire le chat, et puis en fait il s'en foutait, je veux dire, il parlait pendant des plombes, il était incapable de... Il parlait hyper lentement, en plus c'était chiant, il faisait des phrases compliquées. C'est le modèle de la conf de presse US. Oui, Nicolas Sarkozy s'est pas mal inspiré des États-Unis en matière de communication présidentielle. Il avait même inventé un porte-parole de l'Élysée qui faisait des conférences de presse, des points presse quotidiens. C'était David Martineau, je me souviens, qui était le porte-parole de l'Élysée. Et il avait arrêté ce fonctionnement au bout de quelques mois parce qu'en fait, ça servait à rien. Ça marchait pas. David Martineau, il avait réponse à aucune question. Ça fonctionnait pas dans le dualisme du pouvoir exécutif français fait que tu peux pas avoir un point presse quotidien à l'Élysée. C'est absurde. Donc ils avaient arrêté ce système-là, mais ils faisaient des conférences de presse régulièrement, ouais. Ouais. Et effectivement, vraiment sur le modèle américain. Repris à un moment par Macron et Bruno Roger Petit. Ouais, mais enfin ça n'a pas duré longtemps. Hein. Bruno Roger Petit, il est porte-parole qui porte pas la parole. C'est un peu la particularité du bonhomme. Alors si, je crois qu'il passe du temps au téléphone avec les journalistes, mais il fait pas de conférences de presse, de points presse réguliers. Il avait fait, je crois, sur l'affaire Kohler, je crois, un truc comme ça. Il avait essayé d'éteindre l'incendie aussi sur Benalla, mais... Martinon, c'est un peu le glow-up depuis en ambassadeur en Afghanistan. Grave. Ouais. Si tu devais interviewer un homme politique mort, ce serait lequel? Celui qui a un état de décomposition de son corps pas trop avancé pour qu'il puisse articuler? Au départ, ils faisaient, mais vu qu'il n'y avait pas de gaffe, ils ont arrêté le massacre. Oui, non, non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, j'en sais rien. Politique mort, j'en sais rien, tous. Ouais, Churchill. Enfin, ça veut tellement rien dire, ça dépend de. Enfin, moi, j'aime bien faire des interviews d'actualité. Donc, bon, les gens morts sur l'actualité, j'en ai pas grand-chose à branler, si tu veux, de leur opinion. Ils sont plus au pouvoir. Cicéron. Non, Constantin. Ah, et l'empereur Constantin. Dis donc, monsieur l'empereur, qu'est-ce que c'est que cette histoire de christianiser l'empire? Première question. Deuxième question. Les invasions barbares en Gaule, les invasions perses à l'est et le bordel en Égypte, est-ce que c'est pas un peu le début de la fin de l'empire? Pourquoi avoir choisi Constantinople à la place de Byzance? Bien. 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 Les barbares pour ou contre? Ouais. Est-ce que vous craignez pas un déclassement de l'Empire? Ouais. Les finances publiques. Parce que la note de la dette publique extérieure de l'Empire romain est très dégradée. Les emprunts que vous faites. Alors je rigole, mais j'ai vu une vidéo hyper intéressante sur la chute de l'Empire romain qui expliquait que l'Empire avait une gestion monétaire et budgétaire totalement débile. Voilà. Ils avaient besoin de lever des armées de légionnaires romains pour aller se battre. Sauf que lever une armée, ça voulait dire payer la solde des militaires, des légionnaires. Et comment on payait la solde des légionnaires? Bah, il y avait un tarif, hein, c'était un nombre de pièces. Alors je sais pas comment ils appelaient ça à l'époque, c'était pas les sesterces, c'était encore autre chose, mais peu importe. Il y avait un nombre de pièces par nombre de mois ou de semaines, je sais plus exactement que ça. Mais bref, donc les mecs, ils avaient besoin de recevoir leur solde. Et il fallait leur filer leur solde. Ah oui, drachme, je sais plus. Et si les militaires, tu leur filais pas leur solde, non seulement ils arrêtaient de se battre, mais surtout ils commençaient à bosser pour le plus offrant. Et en fait, t'avais des risques de coup d'état, de machin et tout. Ah oui, non, drachme, c'est grec. Les talents. Ah, c'était peut-être les talents. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, peu importe. Et du coup, comment ils faisaient quand il n'y avait plus de pognon? Parce qu'il n'y avait plus de pognon au bout d'un moment. Eh bah, ben, ils refrappaient des monnaies. Donc évidemment, ils avaient une politique de la gestion de l'inflation, je vous laisse imaginer. Mise en circulation de liquidités dans le circuit, n'importe quoi, donc l'inflation permanente, mais ils frappaient des nouvelles monnaies. Sauf que ça coûtait vachement cher de frapper des nouvelles monnaies. Du coup, comment ils faisaient? Ils réduisaient la quantité de métal argent par pièce de monnaie. Donc les premières pièces de monnaie pour les premiers légionnaires, c'était toujours la même, facialement, c'était toujours la même valeur. Ça valait une unité de la monnaie, machin. Sauf que la première génération des soldes, il y avait 70% d'argent dans la pièce, dans le métal. Et puis les dernières générations, on était à moins de 5%. Ils remplaçaient par des métaux moins chers, du zinc, du bronze, des trucs comme ça. Mais ils continuaient à payer le même tarot, hein. Et ensuite, ils jouaient sur les valeurs, ils créaient des sous-monnaies, des trucs comme ça. Enfin bref. Et du coup, les archéologues utilisent ça, la composition en métal des pièces qu'on retrouve, pour déterminer déjà la datation assez précise des pièces. Mais en même temps, c'est assez facile, parce que en général, tu as la tronche de l'empereur dessus. Mais aussi pour savoir quel était l'état des finances publiques de l'Empire à ce moment-là. Ils disaient, ouais, alors bon, les légionnaires qui se faisaient payer avec des espèces de pièces en bronze vaguement argentées sur le dessus, c'était un peu la fin, là. Hein. Il n'y avait vraiment plus de pognon. En vrai, c'est trop intéressant. Mais oui, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Bretton Woods sur 20, oui, c'est ça, c'est Bretton Woods à mort. Donc voilà. Ils n'avaient pas de cour des comptes. Oui, la cour des comptes. L'armée romaine, c'est 500 000 professionnels pour 50 millions d'habitants. Putain, 500 000 fonctionnaires. Hein? Et à l'époque, au Parlement, à Rome, là, est-ce qu'ils discutaient de l'argent public, des fonctionnaires, de machin? Ils étaient où les libéraux à l'époque? On va dire ouais, la dette publique, le déficit, fonctionnaires, machin, assurance chômage, la retraite. Pas de plainte, on lance des petites conquêtes pour enflouer les caisses. Oui, alors c'est vrai que les légionnaires romains, ils étaient aussi payés sur ce qu'ils ramassaient, quoi. La bouffe, l'argent, les bijoux, les femmes, les esclaves. Ouais. Il y avait une histoire de pandémie aussi. Oui, ben, je crois qu'on a vu le même documentaire sur la pandémie. C'était quoi comme pandémie d'ailleurs? Il y avait une épidémie dans les camps romains. Alors les légionnaires, on les foutait dans des camps. Dans l'équivalent des Balkans d'aujourd'hui, là. La variole. Ah, c'était la variole. Oh, l'enfer. La variole. T'imagines le camp romain, la promiscuité. 5 000 légionnaires enfermés dans un camp, là, à dormir dans des tentes. Tout le monde est malade. La diarrhée, les vomissements, matin, midi et soir. Tout le monde est malade. Suivi de la peste. Ouais, non, c'est un docu d'Arte. Et il est vachement bien fait. En plus, je trouve qu'ils ont. Enfin, bref, ils ont des animations vachement bien. Arte, Variole, Rome, non, je sais pas. Attends, je vais essayer de le retrouver. Qui a tué l'Empire romain? Voilà, c'est ça. C'est ce documentaire-là. Alors, je peux pas vous le montrer parce que PBS 13, ils vont me strike, évidemment. Mais c'est ce documentaire-là qui s'appelle Qui a tué l'Empire romain? Et ils ont des animations pas mal.
En 167
Leurs cartes sont cool. Enfin, non, c'est pas mal. Bon, c'est du documentaire télé avec la vieille voix off hyper pénible derrière, avec la musique grave et tout. Donc, ça emmerde tout le monde sur internet. Mais c'est pas grave, c'est de la téloche. Mais c'est pas mal, même pour de la téloche. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Hop. Je vous mets le lien comme ça. Vous regardez ça ce soir. Je vais y aller parce que là, je vais aller dans le bar où il y a l'événement de Comeback TV sur StarCraft 2. Il y a une compétition StarCraft 2 organisée par les copains de la chaîne Comeback TV. Si vous êtes à Paris, bah, venez boire des coups. C'est rue Oberkampf. Enfin, c'est dans le quartier Oberkampf. Je sais plus quel est le nom de la rue. Vous verrez ça sur leur Twitter. Si vous êtes sur place, venez boire des coups. Sinon, suivez la chaîne Comeback TV sur la Twitcherie. Bah, tiens, d'ailleurs, on va faire un raid. Attends. Attends, la Comeback TV. Ah, ils sont. C'est un compte à rebours. Comeback TV, hop, hop. Voilà, un raid pour finir ce stream chez les copains de la Comeback TV. Donc moi, je me barre, je chope un vélo et je file dans ce bar pour aller passer la soirée dans une compète StarCraft 2. Des bisous, merci d'avoir été là, c'était cool. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye. Stream demain, je sais pas à quelle heure, je vous tiens au courant, Twitter, tout ça. Bisous, salut.